On va peut-être commencer, ça va faire venir les retards. Ouais.
Alors,
peut-être Christian, juste avant de commencer. Donc, d'abord, René Jacques Maillard, vous l'excusez, mais il ne sera pas là présent ce soir. C'est la troisième séance de l'année. On en a eu deux précédentes. Ça, je le dis pour ceux qui éventuellement n'étaient pas présents. Une première séance où nous avons fait intervenir deux architectes, architectes d'intérieur et designer. La seconde séance, nous avions une équipe de jeunes diplômés de l'école qui se sont réunis en collectif et qui s'appelle, en tout cas qui a pris pour nom DAMP, Design, Architecture et Nouvelles Technologies, et qui sont effectivement investis dans des questions d'actualité, d'avant-garde, entre autres autour de la question du numérique et des nouvelles technologies. Et l'idée était de faire intervenir là d'autres ressources internes à l'école, en l'occurrence Christian Morandi, qui est donc maître assistant des écoles d'architecture, qui est membre du laboratoire LAFCO, qui est docteur en histoire de l'architecture et qui avait consacré ses travaux de recherche, que vous savez peut-être pas, à l'histoire de l'introduction de l'informatique dans les écoles d'architecture, ce qui était tout à fait d'abord une thèse totalement originale, puisqu'elle se basait sur, enfin du moins elle était consacrée à une histoire récente, une histoire extrêmement récente, puisque les acteurs de cette histoire sont pour la plupart tous vivants, ou à peu près, et que le travail de Christian a consisté à dépouiller des archives, mais aussi à aller voir ces acteurs et les interviewer et faire parler de cette aventure extraordinaire qui était celle de l'introduction des techniques numériques dans l'enseignement de l'architecture et dans l'architecture plus généralement. Et mon idée était effectivement de faire intervenir en parallèle ou en discutant un architecte d'intérieur, Philippe Mirail, qui a une pratique quotidienne et experte des outils numériques que tu utilises couramment dans ton métier, que tu enseignes ici aussi à l'école, et le tout avec cette idée de quel est l'état des lieux, c'est-à-dire à la fois partir de l'histoire, d'où on vient, et c'est un petit peu aussi les différents objectifs, en tout cas l'un des objectifs de cette année du séminaire, puisque nous parlerons d'architecture intérieure à la rentrée, avec une historienne qui est en train d'achever sa thèse sur l'histoire de l'architecture et sur l'histoire de l'architecture intérieure, mais aussi de terminer une dernière séance au mois de mai, où nous parlerons avec Bertrand de l'histoire de l'école, permettra effectivement aussi de renouer les liens avec notre propre histoire. Et ici, c'est effectivement faire un état des lieux de l'utilisation de l'informatique, comment ça se passe, d'où ça vient, et puis peut-être avec Philippe de voir la réalité de la pratique, ce qui peut aussi vous être utile à vous, étudiants et futurs professionnels, c'est-à-dire peut-être de mettre tout cela en perspective. Donc là, je laisse la parole à Christian qui va nous raconter une histoire extraordinaire, une aventure extraordinaire, de l'introduction des outils numériques dans les écoles.
Extraordinaire, effectivement. Alors, donc, c'est une thèse d'histoire socioculturelle, plus précisément, c'est-à-dire que l'histoire de l'architecture étant conçue comme la représentation de la société à un certain moment, et donc l'informatique et l'introduction des outils numériques étant l'expression de ce qui se passe dans la société à un certain moment, entre 1959 et 1992. Parce qu'après, avant, il n'y a pas vraiment d'informatique, et plus près de nous, c'est trop près pour avoir un certain recul et pour pouvoir avoir une vision assez détachée des choses. Déjà là, comme l'a dit Alexis, j'ai interviewé pas mal de pionniers qui sont toujours vivants et en fait, qui sont toujours dans l'histoire. Donc en fait, c'est compliqué parce que eux-mêmes sont toujours dans des débats théoriques, etc., et n'ont pas une vision distancée de leurs activités à l'époque. Donc voilà, c'est un peu le problème qui se pose dans l'histoire contemporaine. Alors, donc je me suis intéressé, j'ai fait d'abord, j'ai refait un DEA à l'université, puis après une thèse, et dans ce DEA, j'ai dépouillé un certain nombre de, trouvé un certain nombre de pistes de recherche possibles, et il y en a une qui consistait à s'intéresser aux laboratoires, à des laboratoires qui avaient été créés au début des années 70 dans les écoles d'architecture ou en périphérie des écoles d'architecture, et qui portaient tous dans leurs acronymes un M, qui avaient tous un M dans leurs acronymes, qui signifiait méthode, méthodologie, méthodologique. Et donc je me suis interrogé et j'ai essayé de voir pourquoi, en fait, il y avait ces termes-là dans le nom des laboratoires, et donc essayer de voir, sous la direction d'un professeur qui s'appelle François Loyer, de voir quelles étaient les utopies, en fait, qui se trouvaient derrière ces outils, Et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Comment ça éclaire aujourd'hui l'utilisation de ces outils numériques? Alors déjà, je reviens sur le fait que le terme informatique, donc je vais aller assez vite, hein, je vais faire un exposé assez rapide, même s'il y a beaucoup de choses. Donc le terme informatique, donc ça signifie information automatique en fait. Donc c'est l'association de trois premières syllabes du terme information et de des dernières syllabes du terme automatique. Donc ça désigne, ça c'est Wikipédia qui le dit, à l'origine, l'ensemble des activités liées à la conception et à l'emploi des ordinateurs pour traiter les informations. Donc je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'informatique, il y a des ouvrages très bien là-dessus, mais en gros, l'histoire de l'informatique, elle est liée à l'histoire de l'automatisme, et il y a une branche aujourd'hui qui s'appelle la robotique, donc c'est lié à ça aussi, et c'est lié à l'histoire de l'information, au traitement des informations, au sens mathématique du terme. Il y a des savants comme Shannon qui ont développé un certain nombre de théories sur les codes, les codages, la cryptologie, etc., qui permettent de transmettre des informations grâce à des machines. Donc voilà, l'informatique, il faut la comprendre comme ça. Donc peut-être que quand on fait un projet d'architecture, aujourd'hui, on rentre des données qui sont aussi des informations scientifiques et techniques qui vont être traitées par des machines. C'est un peu une différence avec le dessin manuel qui est très importante. Voilà, quand on fait des plans, en tout cas des plans d'exécution, bien sûr. Alors, l'ordinateur, c'est un terme. Ordinateur, c'est un terme qui est spécifiquement français parce que dans les autres pays, on parle de computer, donc calculateur, et donc c'est un prof de français qui a créé ce mot parce que il faisait référence aussi au fait que l'ordinateur permet de gérer et d'organiser les choses. Alors, voilà ce que disait Herbert Simon. Donc, c'est un prix Nobel d'économie, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé aux organisations, aux procédures de décision, ainsi qu'à l'intelligence artificielle, donc à base d'informatique, dont il est un des pionniers aux États-Unis. Et il a travaillé avec Alan Newell, et il a reçu en 1975 le prix Turing, qui est une grande distinction en informatique. Voilà, l'ordinateur a deux faces. Il reproduit la pensée humaine et est à son image. Il permet de systématiser la pensée humaine et en vient ainsi à dire ce qu'est la pensée humaine. Donc c'est assez intéressant parce que, en fait, les premiers qui se sont, pour faire simple, ce n'est pas l'informatique qui a changé la façon de penser les choses, mais c'est parce que des chercheurs et des êtres humains ont essayé d'organiser, d'avoir une autre vision de l'organisation des choses pour résoudre des problèmes complexes qui s'en sont venus à utiliser l'informatique. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc l'informatique commence à se développer dans les années 60 et 70. Je parle de l'informatique et de appliquer au BTP, pour parler d'un terme métier. Bien sûr, l'informatique commerciale commence dans les années 50 avec des très bons systèmes pour gérer les banques, etc. Mais là, en CAO, c'est vraiment dans les années 60, plutôt 70 que ça se passe. Et c'est une période, en fait, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est une période charnière. Ça, c'est le Mirail, hein. Mais on construit énormément, hein, des centaines de logements. Les opérations n'ont rien à voir avec les opérations qu'on construit aujourd'hui. C'est des centaines de logements d'un coup, les grands ensembles, etc. Et donc, je vais assez vite parce que ce n'est pas le but de l'exposé. Et donc, il y a un sentiment qui apparaît chez tous les architectes de l'époque qui sont formés à l'école des Beaux-Arts. Alors là, je ne vais pas non plus développer ça, mais on va parler avec vous après. Une méthode formée sur le dessin, enfin complètement déconnectée du monde réel. Et donc, il y a une angoisse qui s'empare de tous ces architectes de l'époque qui ne savent pas comment gérer, qui se disent « mais comment on va faire pour gérer des opérations pareilles ? On ne sait pas comment faire. » Et donc, certains d'entre eux commencent à vraiment s'angoisser et à se dire « il faut absolument qu'on organise les choses autrement, qu'on ait de nouvelles méthodes pour gérer ces problèmes qui sont des problèmes complexes, et que, si possible, on utilise des outils qui automatisent des procédures pour y arriver, pour faire simple. » Alors, c'est pas tout à fait vrai dans les faits, parce qu'on construit quand même ces logements, il y a des systèmes, les agences sont quand même très efficaces, il y a des plans types, on reprend des plans, etc., et ça se construit quand même. Mais il y a un certain nombre d'architectes qui pensent que ce n'est plus possible, qu'on est devant quelque chose qui est complètement ingérable. Et d'une manière générale, l'informatique s'est développée toujours pour ça. C'est-à-dire que même pendant la guerre, on a développé des outils numériques pour gérer des choses qu'on ne pouvait pas gérer, qu'un être humain ne pouvait pas arriver à gérer. Il faut bien comprendre ça. Et par exemple, pour décrypter des machines codées ou bien pour réaliser des tables de tir très importantes, enfin, des calculs très importants, ben, il a fallu développer des outils pour automatiser tout ça. Donc l'informatique, ça répond toujours à une angoisse humaine et ça vient compléter finalement l'être humain. C'est un peu comme ça que ça se développe. Alors, il y a beaucoup de... Tout ce monde-là, des chercheurs des années 60-70, est baigné par un certain nombre de choses qui sont dans la société, de courants de pensée qui sont dans la société. Alors, voilà, ça, c'est une tour cybernétique de Nicolas Schoeffer. C'est un petit clin d'œil, parce que Nicolas Schoeffer, c'est un plasticien hein, qui développe tout son travail autour de l'idée de la cybernétique, des villes spatio-temporelles, des villes, etc. Mais tout ça, du spatio-dynamisme, etc. Mais en fait, c'est une vision poétique des choses. Mais en fait, ça s'appuie sur des réflexions qui existent dans le monde réel et de pensée très très développée, comme par exemple aux États-Unis, dans les anglo-saxons, la systémique, donc qui est un courant de pensée vise à organiser, à résoudre des problèmes très complexes à l'aide de l'intelligence artificielle, à base éventuellement d'informatique. C'est par exemple ce que faisait Herbert Alexander Simon, que j'ai cité tout à l'heure. Alan Newell, etc. La cybernétique, donc, c'est une métascience qui est développée dès le milieu des années 40 par un chercheur qui s'appelle Norbert Wiener, ou Wiener, qui est un type absolument extraordinaire, qui est prix Nobel, qui est docteur très jeune. Enfin, de toute façon, ils sont tous docteurs très jeunes, etc. Ils sont tous très intelligents, ils ont tous fait des études de mathématiques. Ce sont des gens hors normes, hein. Et donc, le cybernétique, c'est le nom qu'il choisit pour désigner la représentation de ce qui dirige. Donc, il s'interroge à ce qui dirige dans le sens d'identification de la logique sous-jacente, du mécanisme de communication qui induit qu'une chose se passe ou non. Donc, il fait partie aussi, il participe à des conférences à New York, ce sont les conférences de MACY qui sont très intéressantes, MACY, où vont se développer plein de réflexions sur les nouvelles technologies, évidemment la façon dont un être humain travaille avec une machine, les comparaisons entre un être humain et une machine. Enfin, on est dans une sorte de réflexion presque philosophique sur l'homme et la machine, sur les modifications qu'induisent les communications, sur la cognition, comment un être humain perçoit le monde extérieur, comment il peut le modifier, etc. Enfin, on est tout à fait là-dedans. Ça, c'est une photo qui montre... Il faut que j'aille plus vite, parce que sinon, je vais pas tenir, j'allais prendre trop de temps. Ça, c'est la première fois qu'un être humain travaille en interactivité avec un écran. En 1956, il y a un système de défense américain, parce que les Soviétiques ont des avions qui peuvent aller aux États-Unis, et qui peuvent voler jusqu'aux États-Unis, et ils ont surtout une bombe atomique, et donc ils peuvent aller bombarder les États-Unis. Donc il faut tout de suite mettre en place un système de défense qui est informatisé. Donc IBM développe des centres informatiques pour alerter les côtes américaines et immédiatement envoyer des avions pour aller contrer les soviétiques. Donc, vous voyez, ça c'est un mi-chemin entre un radar et un appareil de télévision, mais un homme, pour la première fois, travaille face à une machine pour déclencher des alertes, etc. 1962, quelques années plus tard, Ivan Sutherland, une vingtaine d'années, donc un petit génie aussi, invente au MIT, donc à Boston, le premier finalement système qui permet de dessiner, qui s'appelle Sketchpad. Vous pouvez regarder sur internet, on le voit travailler sur Sketchpad, donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et puis 2 ans plus tard, l'industrie automobile, la CAO des mécaniciens, se met à utiliser ces machines pour dessiner des carrosseries de voitures. En France, ça arrive plus tard, ça arrive dans les années 70. Et il y a Pierre Béziers, Casteljau chez Citroën, et dans l'industrie aéronautique aussi, dans l'industrie navale, on va commencer à développer des systèmes pour concevoir ou pour scanner des modèles et pour les traiter, pour les dessiner de manière plus juste. Mais l'architecture, elle n'est pas encore touchée par ce domaine. Et puis, le niveau de complexité est complètement différent. C'est relativement simple de dessiner une carrosserie de voiture. C'est beaucoup plus complexe de concevoir un outil numérique qui va permettre de fabriquer un projet d'architecture. Car l'ambition de ces chercheurs ne consiste pas à vouloir dessiner un projet d'architecture, ce serait trop simple, au contraire, il faut absolument que l'architecte ait des outils qui lui permettent de faire de l'architecture. Donc on va essayer tout de suite, dès le départ, d'inventer des systèmes qui vont permettre de faire des projets d'architecture, voire d'automatiser complètement la conception architecturale. C'est ce qu'il faut bien comprendre aussi. Il ne voulait pas faire un AutoCAD, il voulait faire vraiment des outils pour concevoir des projets d'architecture. Alors, les premiers à utiliser en fait l'informatique, qui est balbutiante dans les années 60 en France, ce sont des gros systèmes, mais il y a quand même déjà des sociétés de services qui permettent d'utiliser des ordinateurs, mais il n'y a pas du tout d'interactivité, il n'y a pas de possibilité de faire ça. Ça, c'est vraiment au MIT, mais en France, on produit et on imprime des programmes et on imprime des données. Après, il faut les transcrire à la main en graphique, etc. Ce sont les ingénieurs qui vont en fait organiser leur chantier très tôt avec des outils numériques et qui vont en particulier gérer les programmes PERT, qui sont des programmes qui viennent de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui sont appliqués dans le bâtiment pour organiser les chantiers grâce à des outils numériques. Alors, le monde en fait des années 60, on l'a bien connu pour certains d'entre nous, il est marqué par l'importance de deux choses, c'est des mathématiques qui envahissent totalement la société en France et ce qui correspond et le structuralisme qui correspond un peu à la version française de la systématique dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un petit livre qui s'appelle Mathématiques pour papa et j'ai découvert récemment qu'il y en avait un autre qui s'appelait Mathématiques pour maman qui permettait en fait parce que qui permettait en fait aux parents de pouvoir aider leurs enfants, parce qu'en 1969 sont introduites les mathématiques modernes dans l'enseignement et les parents sont complètement largués, ne peuvent plus du tout aider les enfants, donc il faut absolument des manuels pour qu'ils puissent apprendre les mathématiques modernes qui ont disparu dans l'enseignement mais qui ont complètement envahi l'enseignement français dans les années 60 et 70.
Ça date de quand, Christian, mathématiques pour papa ?
Écoute, l'introduction des mathématiques modernes, c'est 1969. Donc là, je pense que ça doit être dans les années 60, début des années 70. Vous voyez, il y a des petites... alors voilà, c'est premier en maths et même pas capable d'aider son père pour faire le tiercé. Donc ça, c'est vraiment typique des années 60. Le tiercé aussi, c'était un truc important. Alors voilà ce que disait, ça c'est une personnalité importante de la recherche en mathématiques et de la recherche architecturale, parce qu'il va, c'est Lichnerowicz qui dit on travaille maintenant avec une pensée abstraite et non plus avec de l'imagerie. Alors voilà ce que disait un chercheur, ce que m'a dit un chercheur, Pierre Pietri, qui a été un des premiers à faire à l'école centrale des programmes informatiques. Il disait voilà, il faut aussi souligner que ce recours à l'analyse écrite, mathématisable, puis informatisable, n'est pas sans rapport avec une réaction très vive contre le régime académique encore régnant à l'école des Beaux-Arts et dont une des bases essentielles était fondée sur la virtuosité graphique. C'est-à-dire qu'on repérait tout de suite ceux qui étaient très forts en dessin dans un atelier. On les élevait comme on élève des animaux dans une ferme pendant 5 ans pour qu'ils soient très forts et qu'ils soient capables de composer et de gagner le prix de Rome qui était le summum et qui éclairait, qui illuminait tout l'atelier. Donc c'était très important. Ritualisé par des modèles figuratifs que véhiculaient les concours d'émulation. Donc il y avait des concours dits d'émulation qui permettaient de repérer des gens uniquement sur la virtuosité graphique à composer un projet. Cette réaction au dessin en faveur de l'expression écrite et de la méthode systématique était au surplus tout à fait adéquate à une approche fonctionnelle du projet, justifiable de formalisation mathématique pouvant exploiter une informatique qui ne connaissait pas encore ou peu les techniques graphiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, tiens, c'est la haine du dessin, il faut le dire, et en fait, on va essayer d'expliciter le projet pour pouvoir écrire des programmes qui vont permettre de le fabriquer automatiquement. Alors, parallèlement à ça, se développent aussi des mathématiques liées aux sciences sociales. Les mathématiques font bon ménage avec les sciences sociales, le structuralisme est dans le vent. Donc le structuralisme, je ne vais pas revenir là-dessus, peut-être Alexis pourra en parler, mais en fait, ça va complètement imbiber toutes les sciences, c'est aussi une façon de raisonner différente. Et par exemple, ça c'est le cours de Marc Barbu, donc qui est un mathématicien, mais qui s'intéresse aux sciences sociales, c'est-à-dire aux statistiques, et qui donc va dire, grâce aux mathématiques, on va pouvoir classer, organiser des informations sociales liées à l'espace. Et là, en fait, on est dans l'ancêtre, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui les systèmes d'information géographique, la géomatique, qui sont très importantes. C'est des sciences très importantes en urbanisme. C'est des méthodes très importantes qui permettent, grâce à des logiciels, d'associer à des espaces des informations liées à la vie des gens. et des informations plutôt sociales. Alors voilà, ça c'est donc un numéro très important d'architecture d'aujourd'hui. C'est François Chauvet qui écrit, donc c'est le structuralisme appliqué à l'espace urbain. Peut-on tenter une sémiologie du mode de groupement humain après ville? Autrement dit, la ville peut-elle être étudiée selon une méthode dérivée de celle de la linguistique générale? Et peut-elle être considérée comme un système non-verbal d'éléments signifiants dont les structures sont liées à celles des autres systèmes de signification culturelle? Si oui, pareille étude ouvre-t-elle des perspectives pratiques? Est-elle susceptible d'offrir à nos urbanistes le fil conducteur qui leur permette de donner aux nouveaux ensembles urbains une richesse de signification dont ceux-ci sont aujourd'hui dépourvus? Donc on est dans une réaction aussi au modernisme pur et dur, mais donc on va analyser tous les systèmes urbains en sous-systèmes, etc. Enfin, c'est en structure. Hein. C'est quelque chose qui a disparu, mais qui était très présent dans l'enseignement, dans les écoles d'architecture, après 68. Bon, l'inconscient est structuré comme un langage, je n'ai pas pu m'empêcher de citer Lacan. Voilà. Donc voilà quelques implications à l'espace. Donc voilà, par exemple, par Jean-Paul Marois, donc, qui était professeur de mathématiques à UP6, l'école d'architecture de l'ancêtre de l'école de la Villette. Voilà, par exemple, comment on peut représenter un espace urbain par des données, les classer grâce à un certain nombre de règles mathématiques. Donc ça, c'est l'application des méthodes de M. Barbu, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, par exemple, un village donc, qui est représenté d'une manière plutôt schématique. Hein, la topologie a beaucoup d'importance, c'est-à-dire qu'on donne de l'importance aux informations, aux données, mais aussi aux liaisons, aux relations qui existent entre les différents éléments. Et puis, voilà comment on peut... Alors, voilà, je vais mettre en plus grand, voilà. Vous voyez, l'analyse des données intervient dans les domaines, l'exploitation d'enquêtes, d'aide à la conception sous trois formes, la cartographie automatique, l'analyse graphique et l'analyse statistique. Grâce à ça, on va pouvoir poser des données sur un territoire. Voilà comment on peut représenter un village grâce à des informations. Alors, le choix d'un certain nombre de zones avec la détermination des points centraux, tout ça, c'est grâce à des informations, des enquêtes, etc., et des données statistiques. Et donc, on peut envisager des développements futurs grâce aux mathématiques. Bon, je passe assez vite. Voilà, tentative d'organisation objective de l'organisation sociale par Yona Friedman. Bon, donc là, on part dans des délires qui sont pas si délirants que ça, mais en tout cas qui sont intéressants parce que on essaye d'expliquer les données qu'on a. C'est notre façon de représenter l'espace finalement, voilà. Qui a disparu aujourd'hui, mais qui est très, très intéressante. Alors ça, c'est l'application par Yona Friedman des méthodes scientifiques de la cybernétique. Donc il invente Yona Friedman, vous savez, c'est l'architecte qui a construit des villes spatiales dans les années 59, à la fin des années 50, et pour expliquer la position de ces petites cellules dans ces mégastructures qui flottent au-dessus des villes, il invente un système qu'il appelle le flat writer, c'est-à-dire la machine à écrire les appartements, c'est-à-dire une sorte d'ordinateur. C'est quelque chose qui est à début des années 60. Et donc, voilà, et tout est basé sur l'idée que, en fait, il faut. L'architecte va s'occuper de la structure qui reçoit les petits appartements, et les appartements sont conçus par l'habitant. C'est-à-dire qu'on veut supprimer la conception. Il y a un côté démocratisation de l'architecture. Il faut que l'informatique permette de supprimer. L'architecte n'est plus indispensable. L'habitant peut s'en sortir tout seul. Il faut libérer l'habitant du patronage de l'architecte grâce à des boucles d'informations qui circulent pour produire ces espaces. Donc ça, c'est, vous voyez, l'architecte... on considère aujourd'hui qu'il y a un utilisateur futur, donc il... Cet utilisateur, il est virtuel, donc on va lui dire, voilà ce qu'il faut, donc... il recherche des solutions possibles. On lui dit que ces solutions ne marchent pas dans cette structure. Ça revient, il y a des boucles comme ça de feedback, hein, cette notion liée à la cybernétique. Et ensuite, quand ça marche, eh bien, ces maisons sont situées dans l'infrastructure et l'architecte vérifie que tout marche bien. Et voilà. Et donc cet élément-là, on peut le multiplier par 4 000 ou 50 000 personnes, et on peut, d'après lui, grâce à ça, l'utilisateur a une sorte de banque de données, il va choisir les aménagements possibles des zones qui lui plaisent, et puis l'architecte, lui, se contente de vérifier que ça marche, que dans l'ensemble, de s'occuper des réseaux, etc. Alors, il va essayer de faire un programme en 1964 pour l'exposition d'Osaka, mais ça n'aboutira pas avec IBM.
n'aboutira pas à quoi ?
Ça n'aboutira pas. C'est-à-dire qu'en 64, il y a une exposition Axe 64, il y a l'exposition d'Osaka, et donc il envisage avec le MIT de construire vraiment un système informatique pour que tous les gens qui visitent l'exposition puissent fabriquer leur propre appartement, mais ça n'aboutira pas. Alors, à l'époque, il y a aussi une notion importante, c'est celle de fonction architecturale, et je vais l'expliquer après par une approche de certains des design méthodologistes, c'est celle de fonction architecturale. Donc, en fait, c'est une notion qui dit que voilà, l'architecte n'est plus le seul concepteur. Il fait partie d'un ensemble de gens qui vont concevoir. Donc, la fonction architecturale regroupe toutes les décisions et tous les actes dont le but est d'organiser l'espace. Alors, on va parler des BIM, donc ça c'est très important parce que c'est un peu la philosophie sous-jacente au BIM. C'est-à-dire que le BIM, c'est un peu un outil qui permet à tout le monde de travailler ensemble. Et ça, on le retrouve au début dans cette histoire-là de fonction architecturale. Toutes les décisions, tous les actes dont le but est d'organiser l'espace. L'architecture est représentée comme intégrée dans son environnement. Donc, la notion d'environnement, c'est pas la notion de l'environnement vert aujourd'hui, à l'époque, c'est autre chose. Mais c'est lié aussi au design, hein. C'est pour ça que c'est important ici. Par environnement, on entend les ensembles contenant les sous-ensembles qui constituent l'espace, les êtres vivants, les objets, les phénomènes naturels et sociaux. Dans la fonction architecturale, l'architecture ne dépend plus d'un seul homme, ni d'une seule profession. On parle alors de production de cadres bâtis, c'est-à-dire le cadre matériel de la vie des hommes. C'est comme ça que c'est défini dans la plaquette de présentation d'une école qui existe à l'époque, qui s'appelle l'Institut de l'Environnement. Je vais parler après. Donc, l'architecte perd son image d'artiste pour devenir un spécialiste de la création des espaces, apte à dialoguer avec d'autres acteurs. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir dialoguer, de pouvoir, grâce à l'informatique, grâce aux outils numériques, concevoir ensemble quelque chose qui est très complexe. Et pour s'adapter à ce changement de paradigme, c'est-à-dire de modèle, il apparaît nécessaire que le processus de conception architecturale puisse être exprimé clairement. C'est-à-dire qu'il va falloir expliciter clairement ce qu'on fait pour que d'autres puissent rentrer dans la chaîne, dans la boucle, et pour que on obtienne le moyen, avec d'autres, de résoudre des problèmes ultra complexes. C'est un peu une façon systémique de raisonner. Alors, ça, c'est ce qui a marqué dans la plaquette de l'Institut de l'Environnement. Ces écoles partent de l'hypothèse qu'un certain nombre de professions enseignées et exercées juste ici, isolément, ont une tâche commune, créer et organiser le cadre matériel de la vie des hommes. Et donc, le design, il fait partie complètement de cet environnement.
Les dates de ce...
Oui.
Alors, l'Institut de l'Environnement, c'est 1968-1973.
D'accord. Et ce premier document de synthèse...
Ben, ça doit être 1968 ou 9. Je pourrais vous donner la date, je ne l'ai pas notée. Alors, j'ai repéré aussi, ça c'était pas dans ma thèse, mais c'est important, je suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il faut aussi penser à ce qui se passait à Ulm, donc à la Hochschule für Gestaltung à Ulm, qui est une école de design, hein, où là, donc c'est une école qui, je ne suis pas un spécialiste, donc, mais j'ai compris que c'était une école qui était en fait, qui provenait finalement du Bauhaus, c'était un peu une extension de la suite du Bauhaus après la Seconde Guerre mondiale. Et là, il va y avoir, on va être complètement dans cet esprit-là, il va y avoir à la fois des enseignants qui vont être issus du Bauhaus, et qui sont des enseignants qui enseignent peut-être comme on enseigne ici un peu, quoi, le design, plus des enseignants qui vont s'intéresser à de nouvelles méthodes de conception. Et c'est là où ça devient intéressant, on rejoint l'histoire de l'informatique. D'autant plus que cette école va fermer ses portes au début des années 70, et qu'un certain nombre de ces enseignants vont venir à Paris enseigner à l'Institut de l'Environnement, rue d'Ulm. Ce qui est quand même assez étonnant. Et voilà. Donc ça, c'est à l'emplacement aujourd'hui de l'École des Arts Décoratifs, National Supérieur des Arts Décoratifs. Donc là, on est rue d'Ulm. Et dans cet Institut d'Environnement, il y a un centre de calcul qui est créé, qui va être à l'origine d'un des grands laboratoires d'informatique parisiens, qui va devenir le CIMA à Paris, dirigé par Jean Zetoun, dont je vais parler après. Donc vous voyez que les choses sont assez étonnantes. Alors voilà, la deuxième branche de l'école allemande à Ulm, c'est une branche qui s'intéresse aux méthodes de conception, et avec, j'ai noté deux personnes importantes, Bruce Archer et Horst Rittel, qui vont s'intéresser aux méthodes de conception, donc au design théorie, un design au sens de conception Alors là, et donc Horsfittel, lui, s'intéresse en particulier aux wicked problems, c'est-à-dire les problèmes embêtants, très compliqués, très complexes, quoi. Voilà. Et l'architecture en fait partie, évidemment, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors voilà, donc ils vont. Donc là, je me suis permis de parler un peu de ce livre, donc qui est en fait issu d'une des premières conférences de ces. Ça s'appelle Emerging Methods in Environmental Design and Planning. Donc les nouvelles méthodes dans la conception et environnementale et l'organisation. Donc voilà, ça c'est par exemple. Alors ces nouvelles méthodes. Elles ont pour but d'exprimer la nature de la pensée humaine et la résolution de problèmes dans le processus de conception. Donc la motivation, c'est de rendre publique la pensée, c'est d'extérioriser la pensée au niveau du concepteur, jusque-là privée, jusque-là enfermée dans le concept, dans chacun d'entre nous quand on conçoit quelque chose, et d'externaliser le processus de conception. Donc c'est assez étonnant. D'apporter la conception à l'air libre, de sorte que d'autres personnes puissent voir ce qui se passe en fait, dans l'esprit du concepteur, et puisse y contribuer par l'apport d'informations et d'idées qui sont en dehors de la connaissance et de l'expérience individuelle du concepteur. Donc ça rejoint cette idée tout à l'heure de fonction architecturale d'une certaine manière, c'est une autre façon de le dire. Donc il faut augmenter le processus de conception, ou développer des méthodes pour compléter le processus, et ça suppose une compréhension de la nature de la pensée humaine. C'est là où ça devient intéressant. Donc ça les amène à réfléchir sur l'acquisition des connaissances, comment on les développe, comment on les applique dans le projet, etc. etc. Alors, voilà, ça c'est donc des modèles qui sont produits. Donc ça c'est un modèle qui est développé par Bruce Archer. Donc un modèle logiste de processus de conception. Alors, avec des outils mathématiques, avec des symboles, etc. La recherche de lois qui sont censées expliquer la conception humaine quand on produit quelque chose. Pas simplement l'architecture, quand on conçoit quelque chose. Donc là, on voit que, très simplement, hein, que le programme, que le temps de la conception est divisé en phases. Chacune des phases permet de résoudre des problèmes spécifiques une partie d'un problème complexe. Ensuite, ça, c'est verticalement, il appelle ça des analogues. En fait, ce sont des schémas graphiques. Hein, ce sont des schémas graphiques ou des schémas logiques qui permettent, en fait, de résoudre certains problèmes qui sont posés dans l'espace. Et il y a une sorte de spirale ici qui est le fonctionnement de la pensée pendant tout ce temps qui permet d'arriver à la conception finale. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme on externalise le projet pour l'organiser, il faut écrire chacune des phases. Et donc, si on écrit chacune des phases, finalement, on fait des algorithmes. Et ces algorithmes, elles permettent, au final, d'écrire des programmes informatiques pour concevoir un projet. C'est-à-dire que l'ambition est démesurée, quoi, quand même. Alors voilà, ça, c'est un petit texte, c'est un petit dessin John Christopher Jones, qui est aussi un design théoricien. C'est un ergonome, en fait, professeur dans le champ des technologies en design industriel. Et il met en relation l'évolution des design méthodes, des facteurs humains et l'évolution des technologies. Alors, il dit, voilà, toutes ces méthodes doivent permettre de rendre public ce qui jusqu'alors était la pensée privée du concepteur, le designer, to externalize the design process, pour externaliser le processus de conception, sous forme de mots, de symboles mathématiques ou de diagrammes représentant les parties du problème à résoudre et les relations entre chacune de ces parties. Il faut ouvrir la conception pour que d'autres personnes puissent contribuer au processus externalisé des connaissances et expériences du seul concepteur. Donc on revient là-dessus. Alors, pourquoi externaliser ce processus de conception? Parce que les méthodes traditionnelles apportent trop d'insatisfaction. Le prix des erreurs de conception est trop cher, particulièrement dans le cas de problèmes urbains complexes. Alors, il faut expérimenter, et puis externaliser et évaluer. Aussi, c'est une notion importante, c'est-à-dire qu'on va simuler et pouvoir évaluer les choses. Alors il dit voilà, les design méthodes peuvent être analysées sous trois angles, la créativité, la rationalité et le contrôle du processus de conception. Du point de vue de la créativité, le concepteur est un magicien. C'est la première image. C'est-à-dire que c'est une boîte noire, donc voilà, il introduit le. C'est ça le concept de la boîte noire, c'est-à-dire on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, c'est magique. Donc, il y a une étincelle de génie, mais on ne sait pas comment ça marche. Mais on peut aussi dire que du point de vue de la rationalité, tout peut être explicité. Donc le concepteur est une boîte de verre dans laquelle on peut décrire chacune des phases du moment de la conception. Hein, c'est le comportement du concepteur. Donc on va se mettre à analyser le comportement des dessinateurs, des concepteurs, comment ça marche, toutes les phases du projet, les décrire, etc. Ou bien, il y a des systèmes auto-organisés, c'est-à-dire qu'il peut concevoir des choses et ensuite s'interroger sur ce qu'il a conçu. Voilà. Alors, il va y avoir plein de méthodes, plein de gens qui vont proposer des méthodes. Donc, Christopher Alexander, lui, c'est une méthode qui consiste à dire, au début des années 60, on peut, quand un problème est très complexe, le subdiviser en sous-problèmes avec des éléments communs à chacun des problèmes, avec des informations mathématiques et des tables, on les résout, et petit à petit, on construit un arbre qui permet de résoudre le problème complexe. Voilà, il l'applique à des projets d'architecture. Ça, c'est... je vais aller assez vite. Ça, c'est... une intervention de Richard Krauss et John Mayer qui travaillent au centre de recherche de l'Institut de technologie de Massachusetts à Cambridge et qui s'intéressent au développement de la pensée dans la conception. Donc ils produisent des tableaux qui racontent l'histoire d'un processus de conception complet avec toutes les phases qui sont marquées, les rapports avec les clients, comment ça influe sur la conception. Ils essaient de comprendre comment ça marche en fait. Parce qu'en fait, pour écrire des programmes informatiques, il faut bien comprendre comment fonctionne le projet d'architecture, sinon on ne peut pas le faire. C'est ça le but. Donc ils disent, voilà, la nature de la pensée. Quelle est la nature de la pensée humaine quand on conçoit? Et comment peut-on résoudre des problèmes dans un processus de conception? C'est fait au MIT. Donc ils sont chargés de travailler sur un système informatique pour la conception des bâtiments, et ils ont constaté que sans une connaissance suffisante de ces opérations et de ces moments clés, il était virtuellement impossible de spécifier les caractéristiques que les systèmes devraient avoir, les systèmes numériques, et ils identifient les questions clés et les grandes périodes dans le processus. Alors voilà, il y a la programmation initiale, il y a la représentation des solutions caractérisées par les concepteurs, ensuite il y a la détermination des principaux aspects des solutions définitives, voilà, ça s'appelle des allocations spatiales, c'est là. Donc on va produire des schémas d'organisation, et puis après on va travailler sur la forme, de plus en plus précisément, pour aboutir au projet. Je vais très vite, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc c'est important. Voilà. Et puis ensuite, chacune des phases est décrite avec des mots, vous voyez, comme un algorithme. Il faut d'abord concevoir, et puis ensuite il faut, etc., etc. Et si ce n'est pas possible, il faut aller comme ci, sinon il faut faire cela, etc. Donc il y a une description totale du processus du projet pour chacune des pièces. Donc c'est le listing des informations et du raisonnement logique pour déterminer les dimensions des salles d'enseignement de musique dans un collège, par exemple. Ça, c'est une autre intervention. Charles Eastman, donc, qui travaille aussi dans une université américaine, et qui, cette image a pour thème le processus cognitif de la conception. Donc voilà, c'est une salle de bain qui ne correspond pas à ce qu'on veut. Donc il faut trouver plein de solutions différentes. Et finalement, alors il y a plusieurs pages, je n'en montre qu'une là. Et donc ça, c'est une sorte de ligne. Chacun de ces codes représente une opération mentale, si vous voulez, qu'il est nécessaire de faire pour arriver aux modifications de cette salle de bain et ensuite pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, etc. Alors lui s'intéresse, Thomas Moran, aux différentes façons de représenter graphiquement un espace. Alors, le concepteur a pour fonction d'effectuer un projet de modification de certaines parties de l'environnement humain. Donc, il pose le problème de la conception au terme suivant. C'est le passage d'un état actuel de l'environnement à un autre. Comment fait-on pour y arriver? Voilà. Et donc, il faut collecter tous les états possibles de l'environnement grâce aux informations. Donc là, on retrouve, vous voyez, c'est un espace. Là, il est noté sous forme de bloc. Et là, donc, on retrouve, vous voyez, la porte... qui est relié à chacun des éléments, etc. Bien sûr, dans les logiciels, aujourd'hui, comme Archicad, etc., il y a forcément ce développement-là, puisque quand on va percer une porte dans un mur, il faut bien que toutes les liaisons qui existent entre la porte, le mur, les fenêtres, etc., soient écrites sous forme de programme. Donc tout ça, c'est l'ancêtre. Il a fait c'est sans ordinateur de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, vous voyez. Alors, floor plan, et c'est, alors ça, c'est la même chose que ça, mais sous forme de graphe.
J'ai une question, mais c'était d'après les questions. Oui, voilà.
Sinon, enfin, pas,
du coup, est-ce qu'il n'y a qu'une seule bonne solution
enfin, Non, il y a plusieurs solutions. À l'époque, en fait, les programmes informatiques produisent un certain nombre de solutions, et en fait, c'est à l'architecte de choisir. Mais pas forcément, je vais vous montrer d'autres exemples. Alors,
hein? Ça fait peur.
Mais c'est-à-dire qu'effectivement, si...
Non, alors là, il n'y a pas. Si vous voulez, là, on est dans les années 60, il n'y a aucune interactivité avec l'ordinateur, c'est impossible. Donc, il faut que l'ordinateur. L'idée, c'est. On va expliciter les choses, on va écrire des programmes, et les ordinateurs vont pouvoir résoudre des problèmes complexes, et on. Voilà, et l'être humain, à la fin, choisira, mais c'est pas lui qui résout. Donc, ça, c'est une autre façon de voir les choses, sous forme de pattern. C'est-à-dire, ce sont des modèles. Bon, je vais aller très vite. Ce sont des modèles qui. Représente l'espace, donc c'est des fragments d'espace, c'est un peu comme Jonah Friedman, des petits fragments d'espace, la porte, un peu ce qu'on fait en première année, la porte, etc., etc., mais qui sont décrits. C'est-à-dire qu'à chaque espace.
On le fait comme ça.
À chaque espace. Chaque espace correspond. À chaque espace correspond une activité sociale, la façon dont on l'utilise, etc., etc. Et donc, on peut comme ça, après, assembler ces éléments-là. C'est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. C'est pas mal. Et là, voilà, ça, c'est une autre façon de faire. C'est des représentations d'un lieu, mais à travers ses activités sociales, en perspective. Ça, c'est une autre façon de faire avec des patterns, un pattern language, c'est-à-dire un vocabulaire de patterns, de modèles, finalement. Mais ce sont des modèles spatiaux auxquels sont des motifs. Auxquels sont associées des activités et des activités sociales. Alors voilà, parallèlement à ça, se développe aux États-Unis, au MIT, dans le laboratoire dirigé par Nicolas Negroponte, qui est connu hein, aujourd'hui encore, c'est lui qui a inventé l'ordinateur à pédale pour les pays du tiers-monde, une pédale manipulée avec des pieds. Hein. Voilà. Et ça, on est au MIT, donc Architecture Machine, qui est le premier programme. Il s'occupe vraiment d'architecture. Ce sont des expérimentations sur l'interactivité à l'époque où c'est impossible de le faire ailleurs. Et Urban 5. Alors là, je vous ai apporté un truc qui a été projeté très peu. Ce sont des films ramenés par Paul Quintran en 1969 du MIT. On voit Architecture Machine. Alors ça, c'est, je pense que personne n'a jamais vu ici. Donc ça, c'est un film. Donc on voit l'architecte au-dessus de la ville, qui l'architecte qui dessine et l'architecte avec son ordinateur. Je vais aller assez vite. Voilà, on est au MIT en 1969. Voilà l'équipe de Negroponte qui installe tout son matériel. Et donc, ils vont faire tout un tas de présents dans ce petit film, toutes les recherches qui sont menées. Donc Paul Quintran m'a autorisé à vous montrer. Toutes les recherches qui sont menées dans ce laboratoire d'excellence. Donc c'est en pleine guerre. Oui, on retrouve les... Voilà, le brainstorming, voilà, le plat de spaghettis, c'est le... ce sont les fils. Alors, ils arrivent avec leur truc. Bon, je vais passer assez vite. Premier élément, c'est groupe. Donc groupe, c'est une tortue. Alors là, ça fait penser à certaines expérimentations des cybernéticiens dans les années 50. Une tortue qui est capable de se reconnaître dans un plan de ville. Et comme elle a des capteurs, ben, elle peut aussi... et l'ordinateur, la machine, peut redessiner le circuit de groupe sur le plan de Boston.
Non.
Si. Regardez, alors je vais aller assez vite, vous voyez, ça c'est le plan de Boston, et donc voilà le circuit de la tortue, du petit robot qui est reconnu et qui est redessiné sur le crâne. Donc ce sont des expérimentations sur l'interactivité. Hein. Alors que tout ce que je vous ai montré avant, ne prenez pas en compte. Voilà le robot. C'est très bien décrit dans un Technique Architecture de 1971 qui se trouve à la bibliothèque. Voilà, vous voyez, il se balade sur le plan de Boston. Voilà la machine, l'ordinateur, qui ressemble un peu à une guillotine. Et alors, l'ordinateur, vous voyez, est capable aussi de redessiner des allocations spatiales. Il est ce que je vous ai montré des allocations spatiales qui sortaient comme ça, et donc on les dessine. Là, lui, il est capable de dessiner les espaces du projet. Donc c'est là-dessus. On est en 1969. Je passe. Parce que c'est assez long. Alors voilà, là ils sont en train de fabriquer une sorte de machine extraordinaire. C'est une sorte de scanner géant. Vous allez voir, il y a des cubes. L'ordinateur est capable de reconnaître des cubes et de les redessiner. Mais vous allez voir ce qui se passe. Donc je vais passer un petit peu plus vite. Voilà, ils sont en train de construire leur machine. Vous voyez, l'architecture machine est là. Donc voilà, ils sont en train de construire ce... Voilà, là, ils prennent des photos, donc on scanne des cubes, et l'ordinateur est capable de les redessiner d'après photo. Enfin, ce sont des expérimentations. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il est capable aussi de redresser les faces, hein, si elles sont mal dessinées. Et puis, dans ce jeu de cubes, on va lâcher des hamsters, des bras articulés. Et donc, c'est très bien expliqué, je répète, lisez-le dans le Technique Archive de 1971. Mais quand on ne l'a pas vu, on ne comprend pas bien. Et en fait, le hamster bouge, se cogne contre les cubes, et le système est capable de savoir si l'hamster se cogne parce que ça le gêne, ou s'il se cogne parce qu'il veut que ça soit retiré. Et si c'est retiré, il retire les cubes, et évidemment, la machine redessine l'espace urbain qui a été modifié, conçu par les petits hamsters.
Voilà. C'est l'expérimentation.
Ça, c'est une
workshop. Ah ouais,
ça, c'est grandiose. Oui, il redessine l'espace.
Tout ceci ne me regarde plus.
Alors, ça, c'est une autre expérimentation au MIT, toujours en 1969. C'est l'ancêtre d'Internet. Vous voyez, ils imaginent un système vidéo, clavier, qui va être développé en fait dans les villes, pour pouvoir rapprocher les habitants des décideurs. C'est-à-dire que on va pouvoir, n'importe qui, il y aura des stations, on pourra taper des questions, vous voyez, poser des questions aux décideurs, aux maires, voilà, directement grâce à ça, on sera filmé, et le maire va répondre. Vous voyez, là, c'est les questions qui sont posées. Voilà. Alors, n'importe qui peut prendre, vous voyez, alors le gars est en train de poser sa question, et il est filmé, etc. Oui, c'est l'ancêtre, finalement, d'Internet, quoi. Bon, à une échelle locale, mais... Bon. Alors, il y a d'autres expérimentations. Par exemple, là, ce sont des expérimentations sur le dessin. Donc, on peut dessiner un croquis, et l'ordinateur va automatiquement rentrer ce croquis sous forme d'un plan. On est sur des informations. Il redresse le croquis pour que ça fonctionne. Voilà. Oui, alors, après, il y a d'autres travaux sur la robotique, des bras articulés, etc., etc. Bon, je vais passer assez vite. Vous voyez, là, ils s'en vont, ils ont fini leur truc. Voilà. Bon, ça, c'est architecture machine. Mais ils vont développer autre chose. Ils vont développer Urban 5, toujours à la même époque. Ça, c'est le premier vraiment logiciel, un des premiers logiciels, parce que je ne vais pas être exhaustif, mais qui parle d'architecture. Qui parle d'architecture, c'est-à-dire que le logiciel commence par se présenter. Bonjour, je vais faire de l'architecture. Je vais t'expliquer comment il faut faire de l'architecture. Donc, c'est un logiciel qui parle, vous voyez.
Petite anecdote.
Urban 5. Comment t'appelles-tu? Alors,
petite anecdote en passant, j'ai utilisé, au début où j'utilisais l'informatique, un logiciel de compta qui reprenait ce fameux bonjour.
Oui, oui.
Donc voilà. Qui avait été regretté dans le logiciel.
Est-ce que c'est la première fois que tu utilises cette machine? Mais oui. Quel est ton nom? Je m'appelle Ted. Alors voilà, pour travailler, il faut que l'idée, c'est de permettre aux gens de pouvoir utiliser l'informatique.
C'est Siri.
Voilà. Et alors le gars pose des questions. Alors, il dit, voilà, je voudrais faire une maison. Est-ce que cette maison est telle surface, etc. Voilà mes contraintes, etc. Alors l'ordinateur va... alors voilà, sur la grille, donc il dessine ses contraintes. Je passe assez vite. C'est aussi très bien expliqué dans leur technique architecture, mais quand on ne l'a pas vu, c'est difficile à comprendre. Vous voyez, c'est extraordinaire, parce que là, vous avez, c'est presque l'enceinte de Windows, finalement. Vous avez des cliquets sur l'écran.
C'est un écran tactile.
Oui, mais c'est ça. Et là, vous avez... Regardez, il est capable de faire une perspective. Par exemple, quand il... Mais il est plus intelligent que ça. C'est-à-dire que quand il est... Le gars, à un moment, qui s'appelle Ted, met un arbre, et l'ordinateur lui dit, non, Ted, tu ne peux pas mettre un arbre ici, car il n'y a pas suffisamment de terre en dessous. C'est... Enfin, vous voyez, il est quand même... C'est quand même... Ou bien il dit, attention, Ted...
On est avant 71.
69, ouais.
C'est l'époque de 2000 ans, en fait.
Ouais, oui, c'est vraiment ça.
Oui, mais enfin, on est dans le plus grand laboratoire des États-Unis.
Comment il s'appelle le robot, déjà, dans 2000?
Ah, là.
C'est Carl.
Dans 2001?
Oui.
C'est A, là.
Ah, oui, A.
C'est A, parce que A, c'est
ah,
IBM,
oui,
c'est une lettre,
oui,
après
c'est
IBM.
Ça, c'est
H, c'est après le I, etc. Et donc là, vous voyez, il y a quand même cette interactivité, et puis le gars lui dit... Alors, à un moment, il lui dit même... attention, tu mets trop longtemps pour résoudre ce problème.
Non.
Voilà. Bon, vous regarderez dans le. Voilà. Bon, je vais passer assez vite. Je montre juste la fin. Donc, allez.
Qu'est-ce que ça fait qu'on prenne trop de temps pour résoudre?
Mais parce que ça fait partie des contraintes données au début. Il y a un certain nombre de contraintes qui sont données.
Faut que tu ailles vite. Voilà. Non, mais ça, c'est intéressant. Ouais.
Voilà.
Il faut que tu ailles vite.
Mais c'est-à-dire que non, il se donne au début un certain nombre de contraintes, donc c'est il faut vrai. Les respecter.
Ah.
Ou bien, attention, peut-être ta commande est contraire à celle que tu as donnée avant, etc.
Mais alors, en fait, ça veut dire que la machine donne des contraintes à l'humain.
Non, c'est l'humain qui donne ses contraintes au début.
Ah, qui les rentre au début. Oui.
Voilà. Donc après, la machine lui dit t'as retenu.
Alors voilà, voilà, dans les laboratoires, en France, il y a trois laboratoires que j'ai étudiés. Je vais passer peut-être assez plus vite. Il y a, par exemple, il y a le CERMA à Nantes, le Centre d'études et de recherche méthodologique en architecture, le CIMA, qui portait d'autres noms aussi, le Centre d'informatique et méthodologie en architecture, et le GAMSO, le groupement pour l'architecture, pour l'application des méthodes scientifiques à l'architecture, à Marseille. Voilà, Paul Quintran, c'était le directeur du GAMSO, il dit, voilà, à cette époque-là, j'avais une pensée très opérationnelle, il fallait sauver la profession, elle était en danger. Elle était en danger quand on allait avoir des transformations catastrophiques avec des problèmes urbains qui allaient se poser, il fallait avoir des outils, j'avais la conviction que nous avions, c'était qu'il fallait forger ces outils. Jean Zetoun dit, j'avais acquis l'idée que le design, mettant en œuvre l'informatique et la conception, devait être assisté et transmis. La conception doit s'apprendre, j'étais très influencé par le courant qui disait que la conception est une discipline. Et puis Jean-Pierre Pénaud, qui a travaillé à Nantes, qui dit, voilà, on s'est lancé dans une opération folle qui consistait à réaliser au CERMA un prototype de simulation numérique des écoulements du vent, etc. Alors, le CERMA, c'est celui qui va s'intéresser aux ambiances. Voilà. Donc, le premier diplôme utilisé avec des outils numériques dans une école d'architecture, c'est celui de Jean-Pierre Pénaud, justement, en 1967. Donc, ça, c'est pas modélisé en 3D, hein, c'est une maquette. Mais par contre, tous les calculs de ces courbes sont faits avec un ordinateur. Et en fait, comme on est aux Beaux-Arts, le thème, c'est un musée de l'alchimie dans la forêt de Pimpon.
Excellent. Non.
Si, si. Alors, avant de faire des outils numériques, ils avaient fait beaucoup d'études avec des méthodes systématiques pour repérer sur des paysages, par exemple, des zones constructibles, etc. C'est le cas à Marseille du GAMSO. Bon, je passe assez vite. Donc voilà. Paul Quintran revient des États-Unis, il avait rencontré tous ces design théoriciens là, et il propose au ministère de la Recherche de créer un laboratoire. À l'époque, ce n'est pas dans les écoles d'architecture, c'est une association. Et donc voilà, il propose une méthode, vous voyez, c'est la méthode qui s'apparente fortement à celle que je vous ai montrée avant. Comment on fait un projet d'architecture? L'intention, la conception, la réalisation. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout. Il y a un vrai programme avec un vrai site, avec des vrais clients, etc. C'est pas ce qui se passait aux Beaux-Arts et ce qui se passe encore dans les écoles d'architecture. On prend des programmes abstraits qui sont situés un peu n'importe où. Ensuite, voilà, alors il écrit. Donc il fait ce laboratoire quand même avec un. Alors Paul Quintran, il a une œuvre architecturale. C'est un architecte qui a beaucoup construit jusque dans les années 70. Mario Borio, c'est un mathématicien, ils sont enseignants de l'unité pédagogique d'architecture de Marseille. Entre parenthèses, il crée la première unité pédagogique en 1967, donc en fait, le changement d'enseignement de l'école des Beaux-Arts date d'avant 1968, hein, donc ça c'est une autre histoire. Ils écrivent une note d'intention afin de proposer la création d'une unité de recherche. Ils disent, ils situent cette unité de recherche dans la lignée des UPAU, des universités permanentes d'architecture et d'urbanisme qui sont en fait des écoles d'été de l'architecture, voilà, où on expérimente de nouvelles méthodes pédagogiques, et du CIAB CSTB, donc du Centre scientifique et technique du bâtiment, et il rappelle les études déjà réalisées dans le cadre de ces associations. Alors les points méthodologiques aptes à structurer ces futures recherches sont les suivantes. L'importance des mathématiques comme instrument d'analyse et de conception des faits urbains et architecturaux dans la systématique du raisonnement pour expliciter les mécanismes logiques en jeu. Donc c'est très clair, on est tout à fait dans cette ligne-là. Pareil, au Centre mathématiques, méthodologie et informatique de l'Institut de l'Environnement, dirigé par Jean Zetoun. Hein, donc voilà la structure. Donc ils vont former des étudiants en informatique, ils vont faire de la recherche architecturale, ils vont faire de la prestation de services à caractère expérimental et de la recherche en informatique aussi. Donc, vous voyez, ce sont des laboratoires très structurés en informatique. Ils vont écrire des programmes. Et voilà, par exemple, le catalogue de programmes au début des années 70 de ce laboratoire. Donc, ce sont des architectes. Hein, c'est pour ça que je le signale. C'est-à-dire que c'est des outils qui sont forgés par des architectes, qui font bien sûr de l'informatique. Donc, ils ont un centre de calcul énorme, voilà, qui est relié. Toutes les écoles de France sont reliées à ce truc-là. Et puis, voilà, alors ils vont faire des travaux sur les allocations spatiales. Donc, vous voyez, pour répondre à ta question, le programme, en fonction de certaines contraintes, produit différentes solutions sous cette forme-là. Et ensuite, eh bien, l'architecte les choisit et les dessine avec des outils traditionnels. Ils vont travailler sur la visualisation topographique, sur le dessin, d'accord, puisqu'il faut développer ça pour faire des logiciels, sur les trames, trames et pavages, et puis sur les outils d'analyse de données, c'est-à-dire automatiser les outils des analyses de données dont je parlais tout à l'heure. Des recherches sur la modélisation en 3D et sur sur le dessin de logiciels d'architecture. Voilà, projet, donc c'est un logiciel, un petit logiciel de dessin d'architecture. Au CERMA, on s'intéresse plutôt aux ambiances, donc on utilise l'informatique pour simuler. C'est une aide à la conception, c'est-à-dire on simule, par exemple, les zones d'ensoleillement des projets pour pouvoir mieux choisir comment on va implanter des bâtiments dans des sites. Alors là, en fait, ils ont comme ce sont des associations, ils fonctionnent un peu comme des bureaux d'études, donc ils travaillent pour des villes, des collectivités territoriales. Et là, vous voyez, ils regardent des grands ensembles construits et ils essayent de voir où sont les zones d'ombre, etc. Mais ça, c'est pas fait en informatique, ça c'est fait à la main. L'informatique, lui, sort des données et ensuite, avec des hypatons, on colle les données pour fabriquer les plans. Alors, on utilise aussi des programmes pour faire des programmes d'allocation spatiale. Ça, c'est un plan d'hôpital. Voilà. Ce sont des programmes américains qui ont été ramenés en France par Paul Quintran. Alors ça, c'est des années. Alors voilà, un des programmes, l'hôpital classique, avec le diagramme du mouvement des infirmières, qui est représenté. Donc plus c'est gros, plus les infirmières passent et repassent dans le circuit. Le but, c'est de rationaliser l'hôpital pour que ça coûte le moins cher possible, évidemment. Et donc ça, c'est une solution possible avec des données traitées numériquement. Vous voyez que là, le circuit de l'infirmière est beaucoup plus, est beaucoup moins, enfin, elle ne passe pas 5 fois au même endroit pour aller dispenser ses soins aux patients. Alors, certains vont développer, par exemple, des programmes, mais je commence à se rendre compte qu'il y a un petit problème, c'est qu'on n'est pas en interactif, donc le programme ne peut pas tout faire. Et voilà ce que disent Sonia Charalambides et Gilles Laffu, qui vont développer un programme d'apprentissage qui s'appelle Pavlov, je vous en parlerai après, ils disent voilà. Une utilisation de l'informatique en mode interactif serait plus appropriée à la prise en compte des facteurs non formalisables et approcherait la réalité de son appellation d'aide à la conception. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliciter, c'est beaucoup trop complexe. Mais si on pouvait dialoguer avec un ordinateur, ça serait plus simple. Il y a des choses qu'on n'aurait pas besoin d'expliciter, qu'un être humain pourrait résoudre. Alors Pavlov, je passe vite. En fait, ils essayent de dire, voilà, si l'ordinateur comprend ce qu'aime l'architecte, petit à petit, peut lui-même faire les choix à la place de l'architecte. Donc, ils vont donner des notes à chacune des solutions. Et plus une solution sera bien notée, plus elle aura des chances de revenir quand l'ordinateur travaillera dessus. Et donc, voilà, ça, c'est tout l'organigramme d'une commande transformée en programme, traitée par la machine. Et ça permet de produire des façades. Donc, ça, c'est embryonnaire, début des années 70. Le 355, Paul Quintran, donc, qui est un architecte qui conçoit, utilise l'informatique avec des étudiants à lui, dont Roland Billon, qui est ingénieur, pour fabriquer un système structurel de maison préfabriqué. Alors, l'utilisateur choisit, en fait, il faut former l'utilisateur à l'architecture avec des jeux de zipatons, comme un jeu de société. Et ensuite, il fabrique une organisation qui lui plaît, l'ordinateur le traite et produit des plans. Alors c'est très embryonnaire puisque les plans, vous voyez, les murs sont dessinés par les petits signes d'égalité, vous voyez, d'une imprimante. Et après, on peut fabriquer des choses. Voilà, ça c'est toujours grâce à ces allocations spatiales, une cuisine qui est fabriquée par un programme qui s'appelle Saint-Blaise. C'est Pierre Pietri, donc j'ai cité tout à l'heure, qui fabriquait ça, voilà, l'organisation d'une cuisine grâce à l'informatique. Donc c'est pas le dessin, hein, c'est vraiment la conception en fonction des critères, des contraintes. Je vais aller plus vite. Dans les années 80, les choses évoluent puisque les architectes qui font de l'informatique sont formés en informatique. Les architectes, oui, sont formés en informatique. Le matériel évolue. Les programmes informatiques deviennent de plus en plus performants. Je vais très vite. Et donc, on peut concevoir ce qu'on appelle des systèmes experts. Donc là, il y a une évolution, il y a une interactivité avec la machine. Le système expert, c'est un système qui permet d'intégrer des règles de métier, pour faire simple. Donc, ça se compose d'une base de connaissances qui regroupe une formalisation des savoirs architecturaux. Un système expert ou système de gestion de la base de connaissances mettant en jeu les règles du métier. Un modeleur permet de réaliser des maquettes virtuelles en 3D afin de pouvoir communiquer avec des utilisateurs, architectes ou ingénieurs. Un système complexe d'interface permettant en amont la communication avec les métiers du bâtiment et leurs acteurs et en aval le dialogue avec un architecte humain. Et donc dans ces laboratoires, il va falloir développer des recherches dans chacun de ces secteurs. Donc ça devient hyper compliqué, quoi, très complexe. Mais c'est l'ancêtre vraiment des BIM. Donc voilà. Et en fait, à la fin des années 70, à Marseille, au GAMSO, on conçoit IPA, instrumentation pour l'architecte, qui est un des premiers, instrumentation de projet d'architecture, pardon, qui est un des premiers systèmes de dessin d'architecture assez précis. Oui ? Voilà, et là on retrouve des plans, voilà, c'est une plaquette publicitaire qui devient IPB, voilà. Deuxième version, c'est présenté au CICOM, et qui se transforme, une partie de cette équipe va créer Keops, qui est un logiciel qui va vraiment être utilisé dans les écoles d'architecture et en architecture, qui est racheté par les États-Unis, par une entreprise américaine, et qui devient Personal Architect. Bon, après, ça s'effondre parce qu'il y a des problèmes de gestion de l'entreprise, donc ça s'arrête, mais en fait, c'est un logiciel qui était très très performant. Alors ça, ce sont des études faites par Paul Quintran sur la modélisation de la chapelle de la Vieille Charité. Et puis, il va s'intéresser aux êtres, ce qu'il appelle les êtres architectoniques, c'est-à-dire comment on conçoit un projet d'architecture pour pouvoir intégrer ces données dans un logiciel. Et on arrive à la fin, à Marseille, à un système très complexe qui s'appelle Tecton, Remus, qui permet à partir de données urbaines de modéliser des quartiers urbains. C'est-à-dire qu'il y a donc un système expert, une base de connaissances, un corpus architectural, des règles de production, un modeleur 3D qui est fabriqué pour fabriquer et produire des systèmes urbains. Voilà. C'est un peu toute l'histoire de la recherche en informatique depuis les années 60 jusqu'au milieu des années 80. On va commencer à utiliser les premiers systèmes experts. Donc il y a la même chose au CIMA à Paris, avec par exemple un projet qui s'appelle X2A, et qui se développe et qui permet en fait, comme à Marseille, de pouvoir mettre, grâce à l'informatique, en liaison le travail des architectes, le travail des ingénieurs, des différents corps de métier, etc. C'est ça l'objectif. Et ce sont des maquettes virtuelles qui sont... Ce sont des maquettes qui sont fabriquées dans ces laboratoires, mais qui sont les ancêtres de ce qu'est un BIM, dont va nous parler aujourd'hui. Maintenant, Philippe Miralier. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après, ça
commence. La sortie d'AutoCAD, l'invention d'AutoCAD.
Oui, alors.
C'est pas un logiciel d'architecture.
AutoCAD, c'est un logiciel de dessin technique qui, qui date, je pense, du début des années 80. Alors, il existe sur Internet l'histoire d'AutoCAD, vous pouvez la télécharger, qui a été écrite par un de ses concepteurs, et ça s'appelait MicroCAD, je crois, au début, et en fait, qui était un logiciel vraiment de dessin généraliste qui permettait surtout aux ingénieurs de dessiner des circuits électriques, des choses comme ça, et qui a été ensuite utilisé par les architectes parce que, qui a été, comme c'est le cas des BIM aujourd'hui, presque imposé par la maîtrise d'ouvrage, qui voulait public, qui souhaitait en fait que les grands projets soient informatisés. C'était aussi une des fonctions, l'informatisation de la société, c'était aussi un des rôles de l'État, et donc qui a demandé à la maîtrise d'ouvrage public d'imposer l'informatique dans les grands programmes de l'époque. Et donc en France, AutoCAD, c'était un des premiers à être utilisé parce qu'il était simple à utiliser. Il ne changeait pas les façons de concevoir. On concevait toujours des plans et puis des coupes et des façades. Alors que ces logiciels dont je parle, Système Expert, etc., eux, ou bien les BIM, s'appuient sur la fabrication de maquettes virtuelles en 3D qui sont en fait des sortes de construction virtuelle du vrai projet, quoi. Alors que AutoCAD n'est pas dans cet esprit-là.
Toujours, ça a été une planche à dessin
voilà, automatique.
Ça n'a jamais été c'était le dessin automatique. Ouais. C'est un remplacement, voilà. On fait le calque par un outil informatique. Ça n'avait pas d'autre ambition, effectivement, à l'époque. Et AutoCAD, c'est 82, la première version commerciale d'AutoCAD, effectivement, c'était 82. Et la première avec interface graphique, donc parce qu'en 82, c'était sous DOS, donc ça ressemblait assez aux écrans qu'on a vus avec les lignes de commande là sur le côté. Et la première interface graphique date de 1988. C'est pour taquiner Christian, sur Mac, évidemment, à l'époque. Elle est sortie sur Windows quelques années plus tard, enfin pratiquement 2 ans après. Mais bon, AutoCAD, effectivement, on passe tous encore par là, les agences, enfin, tu as parlé d'architecture intérieure, c'est finalement très très proche et les cheminements sont assez parallèles, sans qu'il y ait forcément le travail de recherche, effectivement, dont on a bénéficié, puisque la profession est moins importante et moins structurée. Mais au final, on utilise quasiment tout le temps les mêmes outils. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où AutoCAD sortait, effectivement, est devenu, par la force imposée, on va dire, il y avait des produits qui existaient déjà et qui existent toujours. Archicad, par exemple, tu parlais du BIM.
Qui a été fabriqué dans les pays de l'Est.
Date de 1984, par exemple, et quand on utilise un Archicad de 84 et un Archicad de 2015, maintenant, c'est le même outil. Ça n'a quasiment pas évolué. Il y a eu des tas d'autres logiciels. Hein. Il y en a des logiciels qui étaient assez marrants à utiliser. Tu as sûrement connu ça aussi, Architrion. Architrion, en gros, ça permettait de faire des extrusions de volume extrêmement simples, cubiques. Mais c'est des logiciels, effectivement, qui, par contre, là, étaient dans une approche comme Archicad totalement différente et vraiment dans la continuité de ce que tu viens de dire. Derrière, aujourd'hui, notre pratique professionnelle, elle est encore coupée en deux entre les logiciels de représentation comme Archicad, surtout en de représentation en 2D. En agence, c'est 95%, je dirais encore aujourd'hui, des agences, en particulier en architecture intérieure, utilisent des planches à dessin numérique, AutoCAD ou d'autres. Mais les logiciels, le BIM auquel tu fais allusion, c'est une tendance qui est assez forte en ce moment, qui est là aussi pas spécialement poussée par les architectes, mais qui est aussi poussée par la maîtrise d'ouvrage. Tu parlais tout à l'heure de gérer les erreurs, parce que les erreurs, ça coûte cher. C'est une des motivations principales d'utiliser ces logiciels qui sont complexes. Alors le BIM, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est de travailler dès la conception d'un projet, dans une maquette numérique qui est en volume, qui est en 3D, à laquelle on apporte des informations. Et chaque participant à la maquette va apporter des informations à son niveau. Donc la maquette, elle démarre en général dans les agences d'architecture. Villemotte, par exemple, utilise le BIM de manière assez courante et assez intense. Donc ils font toute leur conception de projet. Donc, c'est là encore des outils d'aide à la conception. Ils font leur projet en BIM. Et après, dans le déroulement du projet, chacun va apporter sa pierre au BIM. C'est très intéressant sur les très gros programmes, les programmes d'immeubles de bureaux, quand on a des choses qui sont un peu répétitives. Mais tous les corps d'état techniques, du coup, modélisent en 3D leurs réseaux, les réseaux de gaines, les chemins de câbles, etc., etc. Et ça permet de vérifier effectivement toutes les erreurs du projet et d'affiner toute la maquette du construire derrière. Et à partir de cette maquette, on va extraire les données à construire, c'est-à-dire que l'entreprise qui va fabriquer le gros œuvre, elle va utiliser cette maquette BIM pour en extraire des plans de coffrage. Donc on extrait à partir de la maquette les plans de ferraillage, etc., 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 à partir de la maquette BIM. Alors, nous, en tant qu'architecte d'intérieur, on est un peu la cinquième roue du carrosse sur ce type de projet. Et on a une grosse difficulté, c'est qu'on est tout le temps dans le sur-mesure. Alors, le BIM, c'est vachement bien. quartier répétitif, parce qu'on va nourrir, on va nourrir le BIM, on va nourrir la porte, l'huisserie, etc. On va donner des caractéristiques. Et nous, on arrive derrière en disant, ah oui, mais ma porte, celle-ci, je vais mettre une surépaisseur pour qu'elle soit sous tenture, etc. Et on se rend compte, là actuellement, je travaille sur un projet où on est en BIM, effectivement, enfin, où la production du projet est en BIM. On se rend compte qu'il y a 800 portes sur le projet, il y a 400 portes qui sont traitées par l'architecte d'intérieur, et sur les 400 portes, il doit y en avoir 380 différentes. Il n'y a pas deux portes pareilles. Parce que, enfin, j'exagère un tout petit peu, hein, c'est un peu caricatural, mais parce que les zones traitées par l'architecte d'intérieur sont toutes des zones spécifiques, c'est le restaurant, c'est le hall, c'est le... Hein. Il y a un peu de répétitif sur les paliers d'ascenseur et sur les sanitaires, mais malgré tout, comme le bâtiment, quand on monte, il a des configurations différentes, on se retrouve fatalement. Donc, il y a des adaptations. Donc là, aujourd'hui, on est encore dans la limite du BIM, parce qu'il faut nourrir, enfin, dessiner une porte en BIM, mais il faut lui rentrer toutes ses caractéristiques, etc. Donc, nous, on est encore un petit peu à la limite, mais malgré tout, on rentre, c'est ces années-là, on est en train de basculer, effectivement, dans des projets qui sont complètement en BIM. Donc, toutes les représentations d'architecture intérieure, elles sont, nous, on travaille encore dans AutoCAD, et elles sont ressaisies, modélisées de manière extrêmement schématique. Une épaisseur de plafond, ben, c'est 10 cm, etc., parce que ça comprend l'isolant. Et elles sont schématisées en masse très, très schématique dans la maquette BIM. On est encore sur une charnière là. Ce qui manque aussi, c'est aujourd'hui, parce que par défaut d'exploitation, par défaut de personnel, par défaut de compétences derrière dans les gens qui modélisent la maquette, il manque des gestions de collision. Donc il faut les gens qui font la synthèse architecturale sur le projet, ils passent leur temps à examiner la maquette sous tous les angles pour voir le petit bout de chemin de cale ou bout de gaine qui dépasse du faux plafond, etc. Parce qu'on manque un petit peu, peut-être parce que les données ne sont pas rentrées, parce qu'on n'est pas suffisamment le BIM pour ça, mais on manque de voyants rouges qui clignotent quand il y a un petit problème et qui ne passe pas, etc. On manque encore un petit peu de ça dans l'exploitation de la maquette BIM. Donc on passe notre temps, on fait des réunions comme ça autour de la table, on est 30, il y a un vidéoprojecteur, et on fait tourner la maquette dans tous les sens. On dit là, il y a un problème, on détecte le problème, l'altimétrie, ton plafond, il fait combien, et on est encore dans un travail qui est très empirique. Mais malgré tout, ça sert beaucoup dans les phases, effectivement, pas de conception, mais d'exécution du
oui,
projet.
C'est,
on est vraiment dans l'usage, en exécution. Dans la conception, il y a toujours, je vois chez Vidmot, ils sont toujours dans la recherche, dans la modélisation extrêmement simple. Ils utilisent des outils qui sont souvent extrêmement simples. Mais du coup, ça... Chaque agence a un peu ses particularités. Chez Vidmot, il y a des équipes projet qui travaillent avec SketchUp pour démarrer la modélisation très vite, la conception du projet pour faire des maquettes virtuelles très très vite. Et puis derrière, tout de suite, ça passe sur un logiciel BIM. Alors c'est Revit chez Vidmot, ça peut être Archicad chez d'autres. Mais on est dans une période qui est très charnière. Moi, à travers l'expérience que j'en ai, j'ai vu des projets démarrer en BIM et au moment du DCE repasser sur AutoCAD parce que pour des questions matérielles, la maquette devient trop lourde, etc. C'est toujours encore des contraintes. La maquette BIM du projet sur lequel on travaille, l'immeuble de bureau, la maquette, elle fait 1 giga. Donc, il faut voir, c'est pas un petit... Ils ont des espèces de porte-avions pour faire tourner le truc, quoi. Ne serait-ce que pour la visualiser. Donc on est encore, parce qu'on nourrit, on apporte des informations et ça devient de plus en plus lourd. Et c'est il y a 2 ans, c'est une autre agence, c'est Philippe Tiambaretta, ils travaillaient effectivement sur Archicad, ils ont modélisé, parce que à la conception, c'est des outils qui sont assez intéressants, ils ont modélisé, puis quand ils ont commencé à nourrir le projet, c'est un projet qui était complexe en géométrie, qui était complexe en altimétrie, complexe dans tous les sens, complexe en structure, et à un moment où c'était plus viable en exploitation, parce que la moindre modification générait des heures et des heures de reprise derrière. Et le passage au DCE, c'est fait par un redessin intégral du projet sur AutoCAD. Ça a été, pour l'agence, ça a été assez brutal, parce que ça a été des heures et des heures perdues. Mais on est encore, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'aller vers ça. On est très poussé aussi par les lobbies de fabricants, parce que les lobbies de fabricants ont bien vu l'intérêt derrière commercial à fournir des bibliothèques d'objets BIM préformatés. Des fabricants de matériel, de composants, fabricants de châssis de façade, de fenêtres, de portes, etc. Donc ils fournissent les les objets BIM, les catalogues BIM, et derrière, effectivement, on n'a plus qu'à les insérer. Alors, comme le BIM gère assez bien, tu veux une porte de 90, tu fais une porte de 90, effectivement, ça se gère, ça, on gère très bien le mur autour, etc. Donc, ils fournissent, effectivement, ils poussent à fournir, parce qu'à partir du moment où l'objet est inséré dans la maquette, on va l'utiliser derrière et le mettre en œuvre.
Oui, donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour uniformiser tout ça, pour harmoniser tout ça, il y a eu un travail de lobbying d'un groupe pour développer un format d'échange.
Oui.
Et ça, c'est très important. Oui. C'est-à-dire qu'avec le BIM, il y a un format d'échange qui est nouveau, qui n'est pas le DWG, mais qui est le format IFC. Oui. Et donc, tous ces logiciels produisent des projets au format IFC, et donc les données sont compatibles entre les différents, entre les différents logiciels, Archicad,
oui.
Revit, tout ça.
C'est le normalement, oui. C'est le normalement, oui. Mais ça vient. Il y a 30 ans, le format d'échange, c'était le DXF, qui était un format 2D, puis 3D, mais extrêmement simple, sans aucune... qui était un format de géométrie, en fait, hein, pur, uniquement, sans aucune information liée. Et effectivement, aujourd'hui, on arrive à avoir des formats d'échange riches, on va dire, où on ne perd pas les données. Ce qui est intéressant dans le BIM, ce n'est pas tellement la volumétrie géométrique de l'objet, c'est toutes les données qui sont associées, en fait. C'est surtout ça.
Enfin, la volumétrie de l'objet, la maquette virtuelle, elle est intéressante, par exemple, pour des gens qui ne connaissent pas le projet. Pour la maîtrise d'ouvrage, c'est plus intéressant d'avoir une maquette virtuelle en 3D que des plans et des coupes, parce qu'ils les lisent plus difficilement.
Oui.
Non ?
Oui, oui. Oui, mais finalement, la maquette BIM, effectivement, il y a des formats d'échange. Derrière, elle n'est pas exploitée en BIM, elle est exploitée en moteur, avec des moteurs de rendu, elle est exploitée avec autre chose. On se sert de la volumétrie, mais pas du BIM. Le BIM, il est vraiment, enfin, aujourd'hui, dans les programmes, alors c'est toujours des programmes d'importance, forcément, parce qu'il y a un investissement de temps au départ qui est énorme, mais il est vraiment important dans la possibilité de dire... j'ai constitué une poutre, elle a telle caractéristique, etc., 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 et de pouvoir extraire toutes ces données effectivement derrière. C'est vraiment les images que tu montrais tout à l'heure, c'est là où c'est stupéfiant, parce que la maquette BIM, effectivement, c'est l'objet 3D qu'on fait tourner, ça c'est un peu le fun, mais derrière, l'ingénieur structure, il est super content parce qu'il a tout son prédimensionnement de poutre qui est fait, et à partir de la maquette BIM, on va extraire toutes les données pour refaire la note de calcul de la structure. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, enfin, pour ces métiers-là, c'est pour ça que ces métiers-là poussent dedans. Pour nous, c'est moins riche derrière, effectivement. Alors, ça peut l'être parce qu'effectivement, dans un objet porte, on va rentrer effectivement la face 1 de la porte, la face 2 de la porte, l'épaisseur, le degré feu, etc. et toute une série de caractéristiques qu'on va pouvoir réextraire derrière pour faire le tableau des portes, le CCTP, etc. etc. Alors, tout ça devient aujourd'hui très concret, ça existait. Quand on parle d'Archicad en 84, ce BIM-là existait déjà, mais enfermé dans Archicad.
Oui, alors, c'est il n'y avait pas d'action, oui. Mais c'était plus la maquette virtuelle intelligente.
C'était une maquette virtuelle intelligente.
Oui.
Et les premiers logiciels, moi, que j'ai utilisés en 3D, on pouvait déjà, à partir de la 3D, réextraire les données qui avaient été saisies dans le bloc qu'on avait constitué. Donc ça, c'est effectivement...
La question qui peut se poser, c'est quand on fait un avion et qu'on en vend 800, je ne sais pas combien, 800, c'est peut-être rentable de faire une maquette virtuelle. Et quand on fait un bâtiment, est-ce que ça ne signifie pas que l'agence d'architecture va changer ? Parce que pour que ça soit rentable, il faut aussi en faire beaucoup, ou bien rentabiliser tout le travail de recherche qui a été fait pour modéliser de manière intelligente certains composants.
C'est pour ça que les fabricants fournissent des composants. Hein. C'est un petit peu le danger, c'est que, qu'on devienne finalement des prescripteurs. Quoi. C'est un peu ça. Oui. Oui. Oui, au contraire.
À la discussion, c'est vrai que ce que vous analysez, c'est quand même la difficulté, finalement, toujours entre faire de la série et faire du sur-mesure. C'est-à-dire que là, l'outil, en fait, aide, mais aussi peut lisser, en fait, par le bas. C'est-à-dire, comme tu dis, Christian, on peut imaginer qu'une agence, du coup, elle va faire... toujours la même chose, enfin, tu vois ce que je veux dire, faire des choses vraiment homogènes et bien fabriquées.
Je suis d'accord.
Enfin, quand on voit ce que tu as montré sur l'histoire de l'informatique, c'est vrai qu'on se dit qu'on pourrait vraiment faire des cours en histoire d'archi sur ces fameuses années 70 où effectivement, non mais quand on parle de l'urbanisme de dalle, etc., tu vois, d'accord.
Non, mais je vais lui attraper ses fibres.
Ouais, voilà, c'est ça. On voit bien, et honnêtement.
Il sort pas vivant. Hein.
Mais tu vois, on voit bien
qu'effectivement,
il y a un lien énorme qui peut permettre d'expliquer. C'est-à-dire qu'on le sait intuitivement. C'est-à-dire que dans notre tête, on sait, oui, les années 70, ça renvoie à l'informatique, cette esthétique un peu, tu vois, quand Roland Barthes parle du plastique moulé, quand ceci, quand cela, sur le plan social et culturel, on le sent évidemment, mais c'est vrai que là, tu mets bien, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça nous met vraiment bien en face des yeux. Qu'est-ce qui se passe, quoi, effectivement, comme espèce de révolution dans le champ du métier, en fait, architecte.
Oui.
Et on comprend mieux ses formes quand on nous parle. On a déjà été invité pour respecter le front de scène, commission du Vieux Paris. On avait dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de cette dalle? Il y en a plein. Puis de toute façon, à part ces escaliers spiraux, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et en fait, pour moi, c'était révélateur d'une forme d'esthétique qui révélait aussi une société. Oui. Cette société de l'information et de l'informatique, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est un ensemble complexe, culturel et social. Effectivement, nous, on est toujours un peu gênés en tant qu'historien parce que
la forme a moins d'importance qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que le dessin qui produit des formes, alors ils arrivaient à en produire quand même, hein. Mais par exemple, moi je me souviens quand j'étais étudiant à l'école d'architecture, j'ai commencé les études en 1975, on passait beaucoup de temps à établir des programmes. Mmh. C'est-à-dire que la programmation faisait partie intégrante du projet. Et on pouvait passer 6 mois à faire le programme et 6 mois à faire le projet, mais le projet n'était pas forcément formalisé jusque dans ses détails. Parce qu'il y avait beaucoup de données qui étaient des données sociales, c'est ce que j'ai expliqué. En fait, le doctorat m'a permis de comprendre ce que je faisais quand j'étais étudiant, quoi. Donc voilà, et ça, c'était jamais bien explicité, en fait.
Oui, parce que tu vivais,
Mais parce que dans les années 70, après, il y a quand même eu des architectes de qualité qui travaillait les formes aussi.
Oui.
Non, ce que tu dis est aussi révélateur du fait que le potentiel, la puissance de la machine génère un type de forme. C'est aussi ça, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que l'évolution des logiciels aujourd'hui, quand on parlait d'Architrion qui savait faire que des cubes, ben, du coup, les projets qui étaient dessinés avec Architrion, c'était un projet Architrion, quoi. Je veux dire, c'est forcément, il y a une espèce de lien comme ça.
Oui, mais quand on regarde, par exemple...
Et c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai en automobile.
Philippe, regarde par exemple le projet de Franck Guéry pour la fondation...
Vuitton.
Voilà. Il est quand même fait sur une sorte de BIM parce que...
Il est fait sur une sorte de BIM qui est...
Son logiciel, c'est un logiciel BIM mais qui manipule des formes ultra complexes.
Oui, oui.
Donc on n'est pas forcément limité à des formes simples.
Non, sauf que le logiciel de Guéry, il est développé par Guéry pour Guéry.
Bien sûr.
Il faut le préciser quand même derrière. Hein,
Non,
mais il s'est fait un outil.
Est-ce que ces outils ne vont pas, finalement, pousser les agences à devenir des agences beaucoup plus importantes qui auront les moyens de s'embarquer dans des aventures comme ça?
Ça, c'était un autre aspect que je voulais évoquer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'informatique, cette informatique-là, c'est un AutoCAD sur un ordinateur, c'est un investissement que même une agence unipersonnelle peut se payer sans gros soucis. Et on doit y arriver, mais commencer à utiliser du BIM, à utiliser des logiciels qui sont extrêmement sophistiqués, qui sont extrêmement riches, donc qui sont extrêmement chers. Ils ont des coûts de licence qui sont extrêmement chers, ils ont des coûts d'abonnement qui sont extrêmement chers. Il faut un matériel qui est extrêmement coûteux, il faut des gens extrêmement performants pour pouvoir les utiliser pleinement. Et du coup, ça commence, là j'ai déjà fait 4 personnes, quoi, et on commence à générer effectivement des méthodes de travail qui sont forcément plus unicitaires. C'est-à-dire que le pauvre architecte tout seul dans son coin ou architecte tout seul dans son coin, il est largement pénalisé par rapport à des structures plus importantes. Ça veut dire qu'il va se couper des marchés publics, il va se couper de la commande, et il va se contraindre à des projets. Alors, c'est encore plus vrai pour nous, architectes d'intérieur, parce qu'on est sur des échelles souvent moins grandes, et c'est difficilement transposable, ce que tu disais, l'investissement de temps, un appartement de particulier en BIM, ça a peu d'intérêt, quoi, finalement. Ça a peu d'intérêt parce que la valeur ajoutée, elle n'est pas là, quoi.
J'ai plein de remarques et plein de questions, mais je crois qu'il y avait des questions.
Oui, mais c'est bien, je pense qu'on leur a dit que c'était participatif. On les a fait venir de leur dire que...
Vous avez des remarques, des questions posées?
Oui, je voulais dire sur l'utilisation concrète de la photobine. En fait, c'est directement le concepteur qui entre toutes les données?
Non, en fait, chacun apporte sa pierre. C'est-à-dire que l'architecte, il va commencer par monter une maquette schématique en BIM, effectivement, qui est une maquette de forme, mais qui reste très schématique, sans rentrer dans le détail, comment dire. Il va...
Quand vous dites qu'on entre des
Alors, c'est comme AutoCAD, il y a des bibliothèques de portes, il y a des bibliothèques de composants. Sur un gros projet comme ça, l'architecte, il va dessiner sa partie, c'est-à-dire qu'il va dessiner le volume du bâtiment, les façades, les niveaux de plancher, les escaliers, etc. C'est ces données-là. Il y a des outils qui permettent de dessiner de manière semi-automatisée. Si vous utilisez un peu Archicad, dessiner un escalier dans Archicad, on a une fenêtre de dialogue, on rentre tous les paramètres. Et l'escalier se dessine tout seul. Donc, de manière assez schématique. Il n'est pas designé, il est dessiné. C'est autre chose. Mais disons que, effectivement, sur un projet d'architecture, l'architecte va dessiner toute cette première maquette-là. Et cette maquette, elle va vivre après, jusqu'au bout du projet. C'est-à-dire, quand l'ingénieur structure va rentrer sur le projet, lui, il va dessiner toute la partie structurelle du bâtiment, les poutres, redimensionner les poteaux, et ça va se substituer petit à petit à la maquette des architectes. Et ça se fait dans l'échange complet, comme ça, oui. Permanent, en fait.
C'est-à-dire que moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que.
C'est ce que tu montrais, effectivement, déjà.
C'est très ancien. C'est l'origine, oui, c'est du BIM.
Moi, j'étais stupéfait de voir ça.
Tout le monde travaille ensemble.
Chacun amène sa pierre. Le façadier, aujourd'hui, la maquette BIM, elle est en train d'ingérer le projet sur lequel on travaille. Elle est en train d'ingérer les BIM du façadier qui fait toutes les façades du bâtiment.
Moi, la limite que je vois, c'est que le problème, c'est que les notions, les données, elles varient en fonction d'un bureau d'études à l'autre. Par exemple, un bureau d'études techniques va s'engager sur une construction,
oui.
Là où un autre ne va pas s'engager. Et du coup, ça veut dire que quand on va dessiner, il faut absolument que le dessin soit exactement identique. Or, on a tous expérimenté les logiciels, on a tous des manières complètement subjectives d'utiliser les logiciels.
Ça oblige à une...
Est-ce qu'on va rentrer dans une normalisation du dessin où ça va être encore l'anarchie, comme quand on s'envoie des plans entre bureau d'études techniques, bureau d'études
sociales. C'est paramètres humains.
Oui, il faut supprimer
les paramètres humains. Non.
Il s'agit des phases d'exécution du projet.
Oui. Oui, en conception, c'est pas un gros souci, effectivement. Enfin, même nous, dans une planche à dessin type AutoCAD ou AutoCAD, c'est vrai que de toute façon, en tant qu'architecte d'intérieur, on travaille toujours avec des gens qui sont à l'extérieur. On travaille forcément avec des architectes, forcément. Donc cette grande gabegie, elle existe déjà en 2D. Je veux dire, bon, faut pas. Enfin, et puis, enfin, quand tu vois l'état des fichiers qui arrivent, en général, tu vois que le fichier, ça fait 10 ans qu'il tourne parce qu'il y a 250 calques dans le fichier. Et il y en a 5 qui sont utilisés. Le premier truc que tu fais à l'agence, c'est de purger le fichier. Donc, mais ça existe depuis toujours, effectivement, à tel point que nous, notre méthode de dessin à l'agence, c'est de n'utiliser aucune des couleurs principales d'AutoCAD. Parce qu'on dessine dans nos couleurs à nous, parce qu'au moins, on est sûr que on sait facilement isoler ce qu'on a fait. On s'est mis en place un système de code, mais effectivement, chacun fait son système de code dans son coin. Mais par contre, dans la maquette BIM, effectivement, ça oblige à une très très grande rigueur. Je ne raconte pas les premiers échanges avec l'agence Ulmot, ça a été un peu chaud quand on leur a envoyé des AutoCAD. Ça a été un peu tendu pendant...
J'ai pris le joint creux en pleine figure.
Non, c'était sur les calques, sur les objets qui restaient affichés, parce qu'évidemment, c'est censé communiquer parfaitement, mais entre un AutoCAD et un Revit, ça ne communique jamais parfaitement. Oui, ça a été épique. Mais malgré tout, effectivement, il y a un cahier des charges. Donc, en général, cette maquette BIM, d'ailleurs, elle n'est pas gérée forcément par l'architecte, elle est gérée par une société. Il y a des boîtes, maintenant, qui se sont montées, qui faisaient avant de la prestation informatique de plans ou de 3D, qui font de la gestion de projets BIM. Donc c'est eux qui gèrent la maquette, c'est eux qui définissent le cahier des charges en disant l'architecte il dessine dans telle couche, il y a des espèces de sous-ensembles dans le BIM, enfin dans la maquette, qui sont le pack archi, le pack bureau d'études structure, etc. Et c'est, tous ces sous-ensembles sont assemblés par la société qui finalise la maquette BIM et qui fait la synthèse, en général la synthèse technique derrière, la synthèse du projet. Mais c'est hyper contraignant. Enfin, aujourd'hui, ça reste hyper contraignant. C'est vraiment quelque chose, c'est un peu comme tu disais d'AutoCAD, c'est un logiciel qui est arrivé par les ingénieurs, par la technique, sur des pauvres créatifs qui ont résisté. Et c'est un petit peu la même chose avec le BIM. On est dans un univers qui est extrêmement contraignant.
Ce qui est clair, c'est qu'on en voit l'utilité, mais par contre, on ne la voit pas tout de suite. Enfin, ça ne va pas arriver de sitôt.
Non, nous, ce qui nous manque, nous, c'est la... C'est la enfin, dans nos métiers, on est, c'est ce que je disais rapidement tout à l'heure, on est tout le temps dans le sur-mesure.
Oui, mais justement, tu ne l'exclus pas.
C'est non, je ne l'exclus pas.
Tu es obligé de dessiner 280 portes. Enfin,
elles ne sont pas en BIM, mes portes, moi.
Mais, oui, mais du coup, tu les dessines. C'est-à-dire que finalement, oui. Tu les rentres dans la maquette BIM, mais tu les rentres comme si tu les avais fait indépendamment, oui. Comme tu les aurais fait dans un
fonctionnement. Oui, parce que, mais on les rentre de manière extrêmement schématique.
D'accord.
Aujourd'hui, enfin,
ce qui... Ça sert à rien à la maquette BIM.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la porte, ce qu'on rentre comme données dans la porte en maquette BIM, c'est la largeur de la porte, la hauteur de la porte et l'épaisseur de visserie.
Parce que toutes les autres données ne servent à rien à cette maquette.
Parce qu'elles ne servent à rien à cette maquette, parce que derrière, l'entreprise qui va fabriquer les portes, de toute façon, elle n'est pas encore connectée au BIM, donc forcément, elle va redessiner ses portes. Mais elle pourrait. Bah le projet dont je parlais qui s'est arrêté en août, c'est un projet de rénovation, effectivement, un gros projet de rénovation. C'est très lourd parce qu'il faut avoir une connaissance, et c'est au moment où, c'est d'ailleurs le moment où ça s'est arrêté, c'est quand l'immeuble qui était à rénover a été curé et qu'ils ont fait les relevés de tout ce qui existait, c'est là où ils se sont dit c'est plus la peine, quoi, parce que les existants, rien n'était droit, rien n'était standard, et tout était différent, et il y avait 5 couches superposées, et du coup, c'est là où ils ont dit, bon, l'investissement est trop lourd par rapport aux bénéfices qu'on va en tirer.
Sauf que des technologies de scan de l'existant permettront de rentrer tout ça dans
les... Oui.
Après, une autre dimension, c'est la dimension légale. Alors là, je ne sais pas, je pose la question, Philippe. Est-ce qu'il n'était pas question que ce soit obligatoire pour tous les projets
d'ici 2025, tous les bâtiments publics de l'État doivent être disponibles en BIM.
Ouais.
Y compris l'école et...
Oui, mais les grosses agences sont en train de basculer dessus. Enfin, toutes les grosses agences que je connais, que ce soit Valo des Pistes, Viguier, Atelier 2-3-4...
On discutait hier avec Raphaël Lorpérodin, elle est aussi l'agence Vandal, elle est sûre de...
Oui. Et tout le monde est en train de, finalement, un peu sous la contrainte de basculer, dessus.
Quoi. Ou Archicable.
Est-ce que on avait un débat aussi justement avec Dante la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y avait Paul Marchesson qui soutenait que tous les acteurs du projet entraient sur la maquette, enfin, intervenaient sur la maquette. Et là, d'un coup, effectivement, moi j'ai fait la remarque, enfin, la demande, mais tout le monde certes, mais l'utilisateur, il n'y est pas.
Non.
Il peut être inclus dans la boucle décisionnelle en tant que maître d'ouvrage.
Oui, mais il n'a pas les outils pour.
Ah, bah non, il n'a jamais eu.
Non, mais c'est justement toute la différence avec Yona Friedman.
Mais ça, c'est autre chose. Parce qu'eux, ils sont dans un.
Pas complètement.
Pour eux, l'informatique, mais il n'y a pas qu'il y en a. Même pour Paul Quintran, l'informatique, c'était un moyen de démocratiser l'architecture, de faire en sorte que tout le monde. C'était participatif. Je pense que la question, c'est est-ce que l'architecte est dans une logique participative ou pas ?
Avec
le BIM, est-ce que ça favorise la participation? Je ne sais pas si ça sert à ça, le BIM. Non, le BIM, c'est plutôt, à mon avis, je peux me tromper, mais c'est plutôt organiser la production entre tous les corps d'État, l'architecte, etc. C'est une méthode, voilà.
C'est une méthode.
Ça optimise ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a l'architecte et ses plans, il y a un bureau d'études, il y a une maîtrise d'ouvrage, il y a des entreprises, il y a des différents bureaux d'études. Ça existe déjà, tout ça. Mais ils sont tous dans leur coin en train de faire leur truc et les échanges existent déjà. Il y a déjà des plans de synthèse qui se font sur Autocad, etc.
Mais
là, c'est optimisé autour d'une maquette virtuelle en 3D.
Mais optimiser quoi ?
C'est-à-dire que...
La construction. L'acte de construire,
voilà. L'acte de réaliser...
C'est la réalisation.
On est plus sur l'exécution, sur la construction.
Oui, oui, bien sûr. Non, on n'est pas sur...
C'est pas des outils de conception. Enfin, aujourd'hui, tels qu'ils sont utilisés, ce ne sont pas clairement pas des outils de conception.
Il y a longtemps, on a même l'impression que l'activité du concepteur, enfin de l'architecte par exemple, est presque minimisée. Tu me dis, fais une maquette schématiquement, de loin, on a l'impression que
l'architecte, enfin aujourd'hui.
L'architecte, il conçoit, il reste créateur, mais le créateur dans un groupe, dans un ensemble.
Mais
il peut faire son projet.
Non, mais c'est.
Non, mais l'architecte fait toujours son projet avec un
BIM.
L'architecte
est toujours un concepteur, effectivement, mais dès la conception, il n'est qu'un des maillons. Moi, je ne vois pas les choses de manière sous la forme d'un diagramme avec un architecte et puis des fils qui partent vers les différents intervenants. Il est un maillon au milieu d'une chaîne. C'est un maillon au milieu d'une chaîne. Il a un rôle qui est extrêmement réduit aujourd'hui, l'architecte ou l'architecte de l'intérieur. Il a un rôle qui est extrêmement réduit par rapport à ce qu'on voyait dans les années 70. Avant les Beaux-Arts, enfin, la période pré-informatique.
Là, à vous entendre, j'ai l'impression de réentendre et de relire les textes qui avaient été publiés en 1979 lorsqu'on a lancé le concours pour l'hôpital Robert Debré. Mais alors, relisez la presse, tu parles de la presse de l'époque, technique, architecture, etc., c'était rendre à l'architecte sa véritable fonction de dessinateur, de concepteur, pour sortir du cadre de production, c'est-à-dire du BTP, de l'ingénierie, des ascensoristes, du chemin de grue, qui imposait, et c'était déjà ça.
Ça l'est toujours.
En fait, tu es parti du cadre de production. Effectivement, ce que relevait la Mélita tout à l'heure, c'est le cadre de production, la standardisation, le changement d'échelle aussi. On construit non plus des bâtiments, mais des villes entières. Tu montres le Mirail, c'est extraordinairement parlant. Et effectivement, on essaie de résoudre cette complexité par une démarche hyper complexe pour le coup.
Mais nous a montré là. C'est pour ça que j'ai parlé des problèmes complexes de Simon, parce qu'on est dans des projets complexes, des choses très
extrêmement complexes.
Et il faut pouvoir les gérer le mieux possible pour économiser de l'argent, pour ne pas faire d'erreurs.
La complexité, c'est un des éléments effectivement qui favorise la rentrée en BIM, parce que le projet aujourd'hui, la réalisation, mais on n'est toujours pas dans la phase de conception. De conception, il y a plus de complexité certainement, mais très vite, les contraintes imposées à l'acte de construire sont beaucoup plus importantes aujourd'hui que dans les années 70. C'est-à-dire qu'on a un nombre de réglementations qui est énorme. On a toutes les normes, la normalisation, la contrainte HQE, etc., qui nous concerne aussi, qui nous concernait très peu, architectes d'intérieur, mais aujourd'hui, dès qu'on est sur un projet un petit peu grand, ça nous concerne forcément. Donc ça aide à résoudre ça, effectivement.
Et je pense que justement, l'architecte d'intérieur doit être parfaitement conscient de ça. Parce que sinon, il faut pas qu'il soit dévoré par les méthodes du BIM. Il faut qu'il reste dans sa case, mais qu'il reste le concepteur d'espace dans sa case. Et pour ça, il faut qu'il comprenne l'ensemble de la logique. Parce que sinon, il va devenir il va être instrumentalisé par
la. Il est là pour choisir la couleur.
Oui. Mais c'est ce qu'on entend. C'est surtout dans les phases d'exécution, donc le projet il est déjà plus ou moins conçu.
Oui.
C'est ça la crainte de ce que vous expliquez, quand vous dites que vous avez 380 portes sur 400 différentes. Au lieu de dessiner 380, moi ma crainte c'est que le bureau qui est l'économiste dise vous changez les 380 pour le modèle A et puis pour.
Non, pas forcément, parce que c'est. Les contraintes, elles sont. Oui.
Et puis les bureaux d'études des entreprises ne sont pas forcément les ennemis des architectes.
Au contraire, le BIM par rapport à ça peut être un outil. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on est en train de basculer effectivement sur le BIM. Par exemple, sur ce projet-là, les descriptifs n'ont pas été faits à partir de la maquette BIM. Ils ont été faits en manuel. Donc c'est farci de conneries. Enfin, c'est jamais. Parce que la maquette bouge, donc forcément le descriptif, il n'arrive jamais à suivre. Le tableau des portes, il y a un tableau de 800 portes. Le tableau des portes, on l'a refait intégralement après le DCE à la main en traditionnel parce que effectivement ça avait tellement bougé qu'il y a un moment où plus rien n'était bon. Mais après, au contraire, la maquette, le fait que les données elles soient dans la maquette BIM et qu'on puisse les extraire pour en faire le tableau des portes ou le CCTP, ça c'est une garantie de qualité, effectivement. Alors le problème, c'est qui va nourrir l'objet BIM au départ pour qu'il soit bon ou pour qu'il soit... Alors, il y a un nom, les objets dans AutoCAD, les objets, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a les blocs éditables dans AutoCAD où on peut modifier, ça modifie la cote, ça modifie le maîtrise, ça modifie tout derrière. C'est un petit peu cette logique-là, donc là c'est intéressant.
Pardon ? Les objets paramétriques.
Oui, voilà, les blocs paramétriques.
Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment ça se passe dans les autres pays européens ou aux États-Unis, est-ce que tu sais ça ?
Non, pas du tout. Non, j'ai une expérience très franco-française. Alors les États-Unis, ils poussent beaucoup. Et dans les banques de produits qu'on trouve en BIM, il y en a beaucoup. C'est beaucoup de sociétés américaines, effectivement, plutôt qui poussent beaucoup à ça. Alors ils ont.
Le client, l'habitant, enfin, celui qui demande un projet d'architecte intérieur avec le menuisier et l'ouvrier. Enfin, voilà.
Parce que finalement, on pourrait détourner le principe pour l'adapter à des échelles plus petites.
C'est de la méthode de travail, ça. C'est avoir une méthode de travail et de travailler avec des partenaires récurrents. Ça se fait presque naturellement, en fait.
D'accord, oui, mais du coup, voilà.
Non, mais c'est la pratique. Il y a pas de.
Oui. On serait tous ensemble et on mettrait en même temps toutes nos informations. Le menuisier dirait moi, j'ai tel.
Sur des projets à petite échelle, on le fait sur AutoCAD.
T'as pas besoin de BIM.
À petite échelle, t'as pas besoin du BIM, tu le fais sur AutoCAD.
Non, mais la question qui peut se poser.
Mais par contre,
si je suis architecte d'intérieur, comment je m'inscris dans un processus BIM qui est, par exemple, on me demande de faire un hall d'immeuble dans un immeuble qui a été conçu par une agence d'architecture sur un modèle.
Non, mais on est typiquement.
Voilà, c'est un peu ça la question, c'est-à-dire comment vous allez, c'est votre génération, avoir à gérer ça. Vous allez avoir à gérer ça quand même. Vous allez recevoir des plans. Peut-être si vous faites un immeuble de bureau, un hall d'accueil dans un immeuble de bureau, il a été.
C'est ce qui se passe.
On est déjà bien sûr. On a eu à trouver des dialogues communs, ça a été parfois difficile, c'est ce que tu expliques, et on y arrive très bien. Je veux dire, après, effectivement, ce qui ne change pas, c'est la notion de détail.
Oui, parce que.
Sur les mêmes échelles, il faut qu'on s'assure que.
Et puis tu es surtout en 3D. Et tu es surtout en 3D, c'est-à-dire que tu dois. Ta conception, tu dois la rentrer en 3D intelligent.
Oui, mais c'est
dans le projet d'architecte.
On arrive très vite avec certains logiciels très simples à immédiatement visualiser de la même façon qu'on va.
Aujourd'hui, on le fait. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on le fait de matière très schématique.
Ça, c'est des évolutions qui sont récentes.
Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est une réponse. On reste schématique.
Oui, aujourd'hui.
Après, c'est le problème du partage.
Non, mais aujourd'hui, on le fait. Tu parles du BIM à petite échelle, etc. On le fait, mais de manière très, très schématique. C'est-à-dire qu'on va. On a un habillage en pierre sur un mur, on va réserver une épaisseur, on va faire un. Voilà, mais sans rentrer.
C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on en arrive à dessiner des plans schématiques intelligents. C'est-à-dire que finalement, on arrive à ne plus. Ce que tu décris, l'écriture du. Comment dire, des charges est plus importante que ce que tu dessines aussi.
Oui et non, mais je pense que c'est aussi un mouvement de balancier. C'est-à-dire qu'on souffre tous des gros défauts du dessin 2D sur informatique, c'est qu'on peut zoomer à l'infini et que du coup, on a tendance à mettre à des échelles non nécessaires un nombre d'informations dément. Et du coup, là, on se retrouve. Moi, j'ai un peu l'impression de me retrouver quelques années en arrière où c'était compliqué de dessiner, où c'était ça. Et du coup, y a un doublage devant le mur. On met un trait, on ne met pas le trait de la pierre, le trait de l'arrière de la pierre, le trait de l'isolant derrière, etc. On dessine de manière extrêmement schématique. Et effectivement, aujourd'hui, le BIM qui est rentré dans la maquette numérique, c'est du BIM très schématique. Oui. Effectivement, j'ai un doublage en pierre, j'ai 10 cm, j'ai pris 10 cm, j'ai un bloc de 10 cm, j'ai le plafond avec une gorge lumineuse. Mon plafond, il fait 10 cm, le placo plus l'isolant plus l'ossature, machin, c'est 10 cm de réserve. J'ai une gorge lumineuse, j'ai le volume de la gorge lumineuse, mais de manière extrêmement schématique.
Et du coup, en parallèle. C'était pareil. Oui. Au début d'AutoCAD, moi je me souviens, on zoomait, on dessinait tout. En fait, on ne le voyait jamais. Donc, on perdait un temps fou et beaucoup d'argent.
Oui.
Ça coûtait très cher.
Mais c'est un travers qu'on a tous aujourd'hui encore. Je veux dire, moi, je me bats au quotidien à l'agence pour que les dessins soient faits en fonction de l'échelle à laquelle ils vont être utilisés. Alors, il y a des petites fonctions intelligentes qui apparaissent aussi. Il y a des blocs qui permettent d'afficher différentes choses à l'échelle. Chez nous, c'est un combat quotidien parce que j'ai une dessinatrice qui est une ancienne de Camondo, qui est une grande fan de détails et de design, et je peux vous assurer qu'elle dessine tout, donc il faut se battre.
Il faut
se battre en permanence, il faut l'arrêter. Et puis, on trouve chez les fabricants, on est quand même dans des milieux, on intervient souvent dans des choses qui sont assez contraintes, une porte acoustique, tout feu, machin, etc. Le bloc, il existe tout fait chez le fabricant, donc c'est super facile de prendre le bloc. Alors que toutes les informations qui sont là-dedans, elles sont inintéressantes au possible.
Savoir aussi où est sa part de plus-value.
La valeur ajoutée dans le dessin.
Et moi, j'ai une question à poser par rapport à l'école. Quel est, à ton avis, Philippe, qu'est-ce qu'il est important que les étudiants acquièrent à l'école pour pouvoir comprendre par rapport à la formation qu'il y a aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait les former sur un
vaste débat. Vaste débat.
Les former sur Revit.
Le rebondissement.
Moi, je sais pas. C'est super difficile. C'est une question qui est très difficile. Aujourd'hui, on parle de Revit, on parle d'Archicad, mais il y a 30 ans, on parlait d'AutoCAD. Moi, ça fait je suis sorti de l'école, pas celle-ci, celle-ci c'est tout récent, mais en 1985, je crois.
Ah, donc, pour 1800
non, non, pour 1800. Et j'ai acheté un ordinateur en 87. Donc je pense que j'ai vu passer un certain nombre de logiciels. Et ce qu'on se dit, c'est que finalement, le cycle de vie d'un logiciel ou d'une méthode, c'est finalement assez court. C'est assez court. Et effectivement, aujourd'hui, on est... Alors, Archicad, ça existe depuis 84, le BIM, ça existe depuis 1984, mais l'essor, c'est vraiment maintenant, quand même. Et le cycle de vie, alors je pense que c'est plus... c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait acquérir? L'usage du logiciel, c'est facile à acquérir. Enfin, pour ces générations-là, pour nous, ça n'a pas forcément été simple, mais pour ces générations-là, utiliser un outil, c'est quelque chose d'assez simple. Et puis après, je pense qu'il y a aussi...
dans les écoles d'architecture, par exemple, ils apprennent tous très vite. Hein.
Oui, oui, mais à cause des obligations légales qui pendent dans 5, dans 10 ans, etc. C'est un peu la contrainte. La difficulté de Revit aujourd'hui, c'est que ça couvre pas le champ de notre métier. Ça couvre une partie du champ de notre métier dans le faire, mais ça couvre pas le champ du métier dans la conception. Ça couvre pas tous les champs, en fait. Il n'y a pas, pour nous aujourd'hui, enfin même pour les architectes, il n'y a aucun outil qui couvre l'intégralité du champ du métier. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de faire du rendu graphique. Même AutoCAD, c'est pas très adapté à faire du rendu graphique. On a envie de passer sur autre chose parce que les outils sont plus simples. Et puis on a des générations, tu leur donnes un truc simple, ils adoptent, tu leur donnes un truc compliqué et ils baissent de côté. Moi, je fais pareil. C'est pas évident, quoi.
C'est la notion de temps aussi.
C'est la notion de temps, c'est... Bien sûr. Oui.
C'est ça, le problème.
Et on a une capacité à adopter la simplicité quand elle est efficace, bien sûr. Oui.
Oui. Oui. On voit le logiciel comme Sketchup, qui déjà son nom lui-même évoque simplement la simplicité. Aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre à modéliser des choses hyper détaillées sur ces...
Alors, avec des contraintes handicapantes. Parce qu'on ne sait pas faire des formes courbes, parce qu'on ne sait pas... Oui, non, mais après tu peux utiliser un autre logiciel.
En même temps, il y a des logiciels complexes qui sont... Tu as raison, c'est tout à fait juste, mais tu as aussi des logiciels complexes qui permettent de faire des choses que d'autres ne permettent. Par exemple, 3D Studio, tu peux faire des choses très intéressantes en modélisation 3D avec des plugins comme des Voronoi, des choses comme ça. Très facilement.
Ouais, sur SketchUp aussi, il y a des plugins maintenant, effectivement. Oui. Mais effectivement, gérer du rhinocéros avec SketchUp, enfin des formes de, sur lesquelles le rhinocéros sera très à l'aise, toutes les formes organiques, etc. C'est impossible. SketchUp n'est pas le bon outil. Donc à ce moment-là, il faut basculer sur autre chose. Donc,
dans... Oui.
C'est exactement ça. Et c'est moi, je pense que la formation à l'école, ça doit être la capacité à basculer d'un. Parce que vous êtes un peu feignant, vous êtes comme moi, c'est un bon réflexe.
Non, mais c'est vrai. Bien d'avoir une formation sur la logique comme Archicad.
Où est-ce que c'est le... Quel est l'outil le plus facile à utiliser pour faire ce dont j'ai besoin? Je prends cet outil-là, forcément, quoi. Ou je sous-traite, j'appelle Cécile, tu peux me dessiner ça sur... Ou pareil, dessiner des courbes de Bézier, tu parlais de Bézier. Dessiner des courbes de Bézier dans AutoCAD, c'est les spleens d'Illustrator. C'est un cauchemar. Donc, on les dessine dans Illustrator, on les envoie dans AutoCAD. Au moins, c'est vite fait, quoi. Tu vois, c'est... Oh, l'outil courbe l'outil courbe AutoCAD. Mais après, c'est une question d'habitude, de connaissance de l'outil. Je pense que ça, c'est vraiment important. Oui, mais là, tu gères pas les bascules et ça gère pas du tout de la même manière une courbe dans le TK. Ouais. Les poignées et les bascules.
Bien, et puis je me sens tous sacrés dissipés. C'est passionnant. Non, mais comme quoi c'est passionnant. Moi, je remercie enfin, Christian Philippe vraiment énormément parce que
Christian a été passionnant.
Je crois que comme notre séance est enregistrée, donc les gens qui l'écouteront ne sauront jamais à quel point effectivement nous étions nombreux à assister et motivés à cette séance, mais qui était extrêmement complémentaire de ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Et puis il y a deux mois, on est revenu sur la question du sur-mesure, la question du standard, la question de la série. Et je trouve que tout ça est très intéressant. Alors, comme toujours, les spécialistes d'informatique sont très bavards. Oui. Vous êtes intarissables et c'est pour ça qu'on vous aime. Donc, merci.
Et la prochaine, c'est...